Ouais, je suis là, 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 j'arrive. J'arrive, j'allume ça. Je crois qu'il faut que je clique là. Clic gauche, hop, clic droit, clic inversé. Il faut que je fasse un clic. Double salto. Double Axel Lutz. Piqué. Roulade arrière. Ok, ça marche. Comment ça va? Bonjour les amis. Ce stream a failli ne jamais avoir eu lieu. Ce stream, je crois que la phrase n'était pas très française. Ce stream a bien failli ne pas avoir lieu. Exactement. Ah, hey, je l'ai mieux réglé la caméra qu'hier. C'est bien, je viens de me ruiner en achetant une nouvelle caméra là, que je dois recevoir dans les prochains jours. Et en fait, je commence à savoir régler cette petite-là. C'est mieux qu'hier, non? Comment ça va, les amis? Merci, merci d'être là, les amis. Bon, oui, c'est réparer le néon avec de la colle. Ah, oh, c'est marrant, j'ai les journaux devant. Je vais les enlever, on verra mieux le néon. C'est les journaux d'hier. On est au studio, on est au studio. Oui, j'ai mis de la colle. C'est une grande réparation. Ouais. Ah, pour quelle raison ce stream a failli ne pas avoir lieu? Tadam! Tadam! Merci beaucoup. Lilou Rafou, c'est le premier sub du matin. Un grand merci à toi. On dirait que tu sors de l'UV. Non, c'est ma caméra. Je suis une petite webcam toute bête, toute simple. Parce que je veux plus déplacer les grosses caméras qui nous servent à tourner l'émission du vendredi. Voilà, on déplace, il faut des réglages, ça dure des heures. La dernière fois que j'ai voulu remettre la caméra, c'était dimanche, je crois, ou je sais plus. J'ai mis une demi-heure pour tout régler. Donc en attendant, j'ai mis une petite webcam à l'ancienne, là. Et puis j'ai commandé une nouvelle caméra que je vais recevoir dans les prochains jours. Voilà, c'est vrai qu'il penche un peu le cadre. C'est mieux, non, c'est pas mieux du tout, c'est pas mieux du tout. Je suis pas sûr que ce soit le cadre qui penche d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt la caméra. Justement, la caméra. Ah, bon, ce stream a failli ne pas avoir lieu. Je vous dis pourquoi. Ce matin, je mets le réveil à 2h du matin, comme d'habitude. Pourquoi? Pour arriver suffisamment tôt à France Info pour lire les journaux. Alors, d'abord pour France Info, parce que c'est gavé d'infos les quotidiens que je lis, et ça me sert toute la matinée après pour analyser l'actu, notamment les choses qui peuvent se passer un petit peu en direct, et dans les événements, et être en capacité de les analyser. Plus on a lu avant, et plus ça le fait, quoi. Donc, je fais ça comme d'habitude, et puis aussi pour la revue de presse après, quoi. Donc, je lis tous les journaux, comme d'habitude, je prends mon temps, tout va bien. Et puis après, donc, le réflexe utile, le réflexe important, c'est ces journaux que j'ai lus le matin pour France Info, il faut après les amener à la maison. J'arrive ici, tout va bien, dans les temps, j'étais prêt à lancer à 9h30, 9h55, vous allez comprendre. J'ouvre mon petit sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans le petit sac bleu? Devinez ce qu'il y avait dans le petit sac bleu de Papy Sam. Devinez. Salut Annie. Devinez ce qu'il y avait dans le petit sac. Devinez. Rien. Exactement. Voilà. Donc j'avais lu les journaux pour rien. Alors, si je n'étais pas un peu têtu, un peu opiniâtre, un peu dur au mal, qu'est-ce qui serait passé? Je dis, bon, j'ai oublié les journaux, ben tant pis, tant pis. Alors, mais je ne me suis pas laissé abattre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, eh ben c'est pas grave, je vais télécharger les journaux que j'ai lus ce matin sur l'iPad et on va retrouver les articles que je vous ai mis de côté, même si il y aura pas les petits stabilos, on va y arriver. Et là, de quoi je me rends compte? Salut Arthur qui vient pour la première fois. C'est pas fini. Qu'est-ce qui là? Je cherche ma tablette et qu'est-ce qui se passe? Devinez. Non, 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 je n'ai pas ma tablette. Plus de tablette. Elle est à la maison. Heureusement, non, le câble est toujours là. Heureusement, j'ai eu la bonne idée de louer ce petit studio de stream tout à côté de la maison. Ni une ni deux, parce que je déteste. Quand j'ai une idée en tête, je suis têtu comme une mule. Et donc, je vais à la maison, je prends ma tablette, je fais un coucou à Solal. Je reviens à la maison, je télécharge les journaux dont j'avais besoin. Heureusement, il n'y avait pas 1 000 trucs ce matin. Et je les ai. Voilà. On y est, regardez. Ça a été un boulot de fou. Pourquoi tu marches pas? Si, non, non, non. Ah, si, c'est bon. Et donc, voilà. Donc, je suis allé. Regardez la différence. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de fluo. Il n'y a pas de fluo. Mais j'ai retrouvé les articles que je voulais vous lire ce matin. Voilà. Et en fait, j'étais en mode têtu, 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 parce qu'en fait, en vrai, il y avait des articles vraiment intéressants, quoi. Voilà. Et donc, je suis allé vous les chercher. Voilà. Peut-être un petit peu sombre là. Attendez, parce que du coup, je suis en train de vous expliquer que j'étais sur une caméra provisoire. Peut-être mettre un petit peu de lumière. Attendez, on va faire comme ça, parce que je suis devenu un vrai ingénieur en truc de Twitch. Attendez, régler, configurer la vidéo. On va mettre un tout petit peu plus de lumière. Vous allez voir, c'est magnifique. Et voilà. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est magique. C'est magique. Voilà. Donc, il y a Poulbeau qui imagine la suite de l'histoire. Et devinez, il a claqué la porte du studio en laissant les clés à l'intérieur. Du coup, il se démonte pas, il appelle un serrurier. Non! Donc je suis allé au bout de mon idée et en gros, voilà, j'ai les articles que je vous ai mis de côté ce matin. Heureusement, il n'y avait pas 1000 articles ce matin, donc j'ai pu les retrouver assez vite. Voilà, j'ai même téléchargé des journaux dont j'avais pas besoin parce que j'avais oublié que dans ces journaux-là ce matin, il n'y avait pas d'article que je voulais vous mettre de côté. Mais j'aurais été très triste de ne pas être avec vous. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir y aller. On va aller assez vite ce matin parce qu'en plus, je vous laisse assez tôt ce matin. C'est un stream qui va durer, c'est un stream qui va être très court, c'est un stream qui va durer 2 heures, je m'en excuse. On est vraiment sur le micro-stream là. Parce que, en fait, j'ai mon ami Joe qui passe à la maison tout à l'heure, on a un call, on a une réunion téléphonique avec des gens, je ne vous en dis pas plus, pour un stream qui arrive là dans pas longtemps, là, avant la fin de la saison. Donc un stream, c'est un stream surprise événementiel en mai ou en juin, je sais plus du tout, je sais plus du tout. Mais un joli truc qui va vous surprendre parce que c'est un truc que j'ai jamais fait encore dans un domaine que j'ai encore jamais traité. Voilà, mais c'est un chouette truc, c'est un gros truc. Donc j'ai une réunion téléphonique tout à l'heure avec Joe là-dessus. Voilà, donc je suis avec vous pour 2 heures. Mais c'est bien parce que il y avait vraiment des articles intéressants. Donc on va pas tortiller du cul. J'aime assez l'élégance de cette expression en fait. Hein, on va pas tortiller du cul. On va y aller. C'est direct sommaire. Voilà. Ouais, sur les drogues de synthèse, ouais. Pacoun, on va parler de cet article dans Le Parisien. Je pense que tu parles de ça, ouais. Je remercie Lionel P2 pour le 12e mois d'abonnement. Les habitués sont là. Merci beaucoup à Benitouneur pour ce 13e mois d'abonnement. Merci Hazard01 pour l'abonnement offert à Écrivain. Merci de French Muser, 19e mois d'abonnement. Oh, pop, 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 pop. Je vois que French Muser vient jouer à question pour un champion dans pas longtemps. Ça, c'est cool. À bientôt, mon ami. Coco PB76, merci pour le 5e mois d'abonnement. Lisa Fleur, merci pour le Prime. Lilou Rafou, merci pour l'abonnement. Et Karlsborg, merci encore pour le premier sub du matin. Haha. Raffiné comme expression, c'est fin, ça se mange sans fin. Lili plus, je valide. Je valide tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, je ne vais pas faire la couve de Playboy. On est sur un registre un peu plus carré, quoi. Ça va être un truc. Quand je vais vous annoncer ce stream de surprise là, que c'est un truc dont je vous ai jamais parlé encore, sur lequel je suis en train de travailler, vous allez me dire, oh là là, ça a l'air bien sérieux ça. Ouais, ce sera assez sérieux, voilà. Mais c'est bien d'être sérieux de temps en temps, voilà. Mais ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ouais. Chemical, what the fuck? Question qui n'a rien à voir, mais maintenant que tu comptes streamer de plus en plus, ne serait-il pas temps d'investir dans une tour plutôt que de fatiguer ton pauvre PC portable? Alors, je l'ai la tour, hein. J'ai un gros PC maintenant de streaming qui me sert pour les grosses émissions comme l'Hebdo Étienne, notamment qui va me servir à la rentrée pour faire des émissions un peu plus ambitieuses, mais je garde mon petit PC pour mes streams de revue de presse au quotidien. Voilà. Voilà. Bien, oui. Alors, Mayotte, il n'y a pas d'article vraiment très nouveau, Clément, par rapport à ce qu'on a lu hier, mais on ira voir les dernières infos sur Mayotte, parce que pour le coup, les dernières infos avec l'annulation partielle de la destruction de bidonville à Mayotte, en fait, les journaux ne l'avaient pas ce matin parce que c'est tombé trop tard. Bon, il va y avoir un petit article là-dessus, quoi. Voilà. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui pense avoir l'info pour le stream surprise. Ok, je ne commente pas, mais comment vous faites? J'en ai parlé à personne de ce truc. C'est super bizarre. Super bizarre. Super bizarre. C'est super. Il y a des gens qui. Comment vous faites ça? J'en ai parlé à personne. Personne n'est au courant. Personne. 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 C'est bizarre ça. Il y en a qui sont très très forts ici. Vous êtes vraiment une communauté de ouf quoi. C'est dingue. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne commande pas, je ne commande pas. Bien sûr. Ah oui, Kurtag qui est au courant de mes projets de plus streamer à la rentrée de septembre, me dit est-ce que tu vas quand même continuer la revue de presse le matin? Plus que jamais. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Ah ouais. Ah bah oui, c'est la base. C'est mon émission de base, ça, je vais continuer, au contraire. Et puis même pour moi, j'ai trop besoin de lire la presse et de partager ça avec vous, quoi. Ah, il y en a qui savent, il y en a qui savent, c'est dingue. Il y en a qui savent. Bon, donc les amis, du coup, c'est direct, sommaire. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, sachez que c'est exceptionnel, hein. Normalement, le sommaire, ça commence au mieux au bout d'une demi-heure, souvent au bout d'une heure, hein, le temps de se claquer deux, trois bises, voilà, virtuel, hein, on est post-Covid, on fait attention, et de se raconter des trucs, de prendre de ses nouvelles les uns des autres, de parler de la pluie, du beau temps. Et donc là, on est à 13 minutes de stream, et ça va être le sommaire. Eh oui. Eh oui, ça va être le sommaire. Eh oui, c'est fou. C'est fou, hein? C'est incroyable. Caradoc dit, je suis pas prêt. Je sais, moi non plus. J'ai même du mal à imaginer qu'on va se lancer là. Ben ouais, ça n'est jamais arrivé. On va lancer le sommaire au bout de 13, 14 minutes là. Naboléon, merci pour le 11e mois d'abonnement. Vincent 6e, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 19e mois. Yonche, les habitués sont là. Merci pour le 18e mois. Urikne, merci pour le Prime. Vous êtes formidable. Et bon, on y va. J'y fume, ben ouais. Ben ouais, ça va être exceptionnel. Vous êtes prêts? Sommaire? Sommaire? Ouais. Ouais, c'est l'actu en speedrun ce matin. Bim! L'actu en speedrun. Alors, donc, vous ne verrez pas de stabilo jaune sur les articles, non pas que je ne l'ai pas lu, mais comme je vous l'ai dit, j'ai dû télécharger les journaux que j'avais oubliés à France Info ce matin. Alors, la une du Parisien sur les délais interminables. On est dans le sommaire, on va aller vite. Vous savez, sur les papiers d'identité, c'est super compliqué. Enfin, c'est super long, surtout, en ce moment, d'avoir des papiers d'identité, carte d'identité, passeport, ça, vous le savez. Donc, c'est le constat du Parisien qui se penche sur les pistes pour améliorer tout ça. Bon, c'est une info, je pense que vous êtes au courant. Ce dossier, en soi, ne m'a pas passionné, même si c'est un vrai sujet. Moi-même, j'ai eu du mal à refaire mon passeport, mais j'ai pas appris 1000 trucs. Bon, manifestement, les autorités ont l'intention d'améliorer un petit peu le truc. Ça, vous avez l'info. Par contre, ça m'a intéressé parce que je suis pas bien au courant de ce sujet. Ces ados addicts aux antidouleurs, on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Joseph, c'est le jeune homme là, il est tout jeune. Là, il a 15 ans sur la photo. Joseph est mort à 18 ans d'une overdose de benzodiazépine et d'opioïdes. Un téléfilm diffusé ce mercredi, donc c'est demain sur France 2, raconte ton histoire et celle des jeunes accros à ces médicaments. Quand le médicament devient une drogue, dont on peut faire une overdose. Donc c'est super triste. Et moi, je tenais à vous le lire pour, en forme d'avertissement, pour ceux qui pourraient être concernés ou ceux qui pourraient avoir dans leur entourage des gens, et notamment des jeunes gens concernés. Voilà. Donc on va évoquer ce sujet parce que je le trouve très important. Voilà. On lira ce papier en prenant le temps. Ça, c'est la maman du jeune homme qui a perdu la mort et qui est un peu à l'origine de ce téléfilm. Libération, on parle toujours de la jeunesse d'ailleurs, c'est intéressant. Mes darons sont des espions, je vous les titre de Libé comme souvent. Il est question de surveillance numérique. Lisez avec moi. Appli bancaire, logiciel scolaire, traceur GPS. Les dispositifs censés faciliter l'organisation de la vie familiale décuplent aussi l'angoisse des parents, tout en empiétant sur la vie privée des enfants et des ados. Les parents français surveilleraient de plus en plus les enfants, les ados, avec des traceurs GPS, avec des petites applis dans le téléphone, souvent, parfois à l'insu des enfants en question. Ça crée des ambiances un peu particulières quand même. Donc, après, il y a Caradoc qui me dit « Certains mettent une cam dans la chambre des ados ?» Sérieux ? Ah non, non. Sérieux ? Non. Donc ça, c'est un peu fou. Donc on lira ce dossier parce que là, j'ai appris des choses. J'ai vu un chiffre, un sondage là, sur le pourcentage de parents français qui auraient mis des petits logiciels espions dans les téléphones des enfants. Je n'y crois pas tellement je le trouve énorme. Voilà. Bien sûr que si. Et Avil croit qu'il écrit « Un enfant ne doit pas avoir de vie privée ». Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Moi, quand j'étais enfant, c'est-à-dire au 19e siècle, et que je recevais des courriers de mes amis masculins, féminins, quand j'étais tout gamin, eh ben, mes parents ne lisaient pas mon courrier. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Bien sûr qu'un enfant doit avoir une vie privée. Bien sûr. D'ailleurs, il y a même un texte européen qui le reconnaît d'ailleurs. Tiens, j'ai trouvé ça ce matin. Européen ou à quel niveau? Attends, je vais vous trouver ça. Je sais plus où j'ai vu ça. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Heureusement, dit Frenchy Yu-Gi-Oh! Qu'un enfant doit avoir sa vie privée, c'est son jardin secret, bien sûr. Mais c'est intéressant que certains pensent qu'un enfant ne doit pas avoir une vie privée. Parce que si, en fait, on va en parler. Il le croit. Bien sûr que non, c'est trop dangereux. Ah, bah, c'est le problème. Ouais, c'est bien le problème. C'est qu'au. En raison du souci, bien normal d'ailleurs, des parents pour la sécurité des enfants, eh bien, ça va trop loin. Et certains parents oublient totalement un droit essentiel de l'enfant et de l'ado, qui est d'avoir une vie privée, en fait. Voilà. La vie privée ne commence pas à 18 ans, quoi. Si tu veux justement l'aider à devenir un adulte équilibré et responsable, eh bien justement, il faut qu'il y ait cet apprentissage de la vie privée qui commence bien plus tôt, quoi. Et en raison justement du souci de la sécurité de l'enfant et de l'ado, bah, certains parents outrepassent ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens dans le chat là, qui pensent qu'un enfant, un jeune ne doit pas avoir de vie privée. Et bah, c'est un débat intéressant, on l'aura. Chérie, j'ai espionné les gosses. Espionner, c'est pas bien. Soudain. Alors je cherchais depuis 2-3 jours un papier clair sur ce qui se passe au Soudan en ce moment. Je l'ai trouvé, merci Libération. Soudan, un pays ravagé par une rivalité. Si vous vous demandez, là, vous avez dû voir les images peut-être d'évacuation de ressortissants français, européens, américains et d'autres nationalités au Soudan. Vous êtes peut-être demandé, mais qu'est-ce qui se passe au Soudan? Eh bien, il y a un article dans Libération qui est super clair sur les guerres entre deux chefs militaires, en fait. Donc, on va se pencher là de ça. Là-dessus. Merci, Libération. Donc, on va lire Le Parisien ce matin. On va lire Libération et on va lire Le Figaro. Vous allez me dire, bah, La Croix, l'Humanité et l'Opinion et les Échos et l'Équipe et le Monde. Il y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas des choses qui m'ont bouleversé. Donc, c'est dans ces trois journaux-là que j'ai trouvé ce matin les articles les plus importants. Et comme ce matin, on n'avait que 2 heures, ben, je suis allé à l'essentiel. Voilà. Mais c'est que du bon. Je vous lis le Figaro dans un instant. Ça va parler de Biden, de Trump, et vous allez comprendre pourquoi. Je remercie Zapinon pour le gentil message et pour le 16e mois. Dixon78 pour le 9e mois. Et Napoléon, je crois que je t'ai remercié. Alors, pourquoi, devinette dans le chat, pourquoi on va parler de Joe Biden aujourd'hui? D'être au courant? Les accros à l'info là. Max, tu se demandais si on avait parlé du Soudan. Yes. Pourquoi on parle de Biden aujourd'hui? Voilà. Il va annoncer sa candidature. Alors, des sources bien informées. Oh la liaison. Des sources bien informées pensent que Joe Biden va annoncer aujourd'hui sa candidature pour un deuxième mandat. Vous savez qu'un président américain, d'après la Constitution américaine, peut se présenter pour 2 mandats consécutifs. Donc, il va peut-être le faire aujourd'hui, pensent certains médias. Moi, je préfère rester toujours prudent. Donc, c'est aujourd'hui, c'est dans les prochains jours, c'est dans les prochaines semaines. Je te vois, hein, quelqu'un qui a écrit dans le chat, c'est Mister Tourteau. Biden est-il plus jeune ou plus vieux que toi, Samuel? Je te vois, hein. Je vous vois, hein. Vous savez que j'arrive à tout lire, hein. Je lis tout, hein. Attention, hein. Attention, hein. Il est plus jeune. Il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que moi. Mais par contre, contrairement à Biden, j'ai mis beaucoup de crème tout au long de ma vie, donc je ne fais pas mon âge. Mais Biden est un petit peu plus jeune que moi. On y reviendra. Donc vous êtes beaucoup à parler de l'âge de Biden. Bon, c'est un vrai sujet. J'en ai parlé ce matin avec une spécialiste de la vie politique américaine, une universitaire, une chercheuse qui était vachement intéressante, que j'aime beaucoup, sur France Info, et on parlait de cette candidature, notamment de son âge. Soyons prudents, ça va être aujourd'hui, ça va être dans les prochains jours, les prochaines semaines, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Biden, il va se présenter. Enfin, ça, c'est un secret de Polichinelle. Et face à lui, il y a une forte probabilité qu'il y ait donc qui, pour représenter le camp républicain, devinette, c'est dur, hein, il n'y a pas du tout un indice sur la une du Figaro. Yannick Cielos qui demande, t'as plus de 80 ans. Ah, c'est marrant qu'il y a des gens qui savent pas que je suis âgé comme ça. C'est marrant. C'est vrai que je fais plus jeune. C'est vrai que je fais plus jeune. Eh oui, je fais très jeune. Mais je suis bien au-dessus de 80. Mais je crois que je le fais pas. Hein. Je crois que je suis resté bien en forme. Voilà. Oui, c'est Trump. C'est Trump. Eh oui. Eh oui, c'est Trump. C'est Trump. C'est Trump. C'est Trump. Alors, c'est vraiment, waouh, c'est totalement enthousiasmant. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement l'affiche de la dernière présidentielle. Biden contre Trump, ça n'enthousiasme pas les électeurs américains qui disent dans les sondages, ah mais on veut pas la même affiche que la dernière fois, c'est chiant, les mêmes et tout, il faudrait autre chose. Sauf que, a priori, ben, le candidat du Parti démocrate, ça va être Biden, et on verra pourquoi. Et le candidat du Parti républicain, ce sera Trump, a priori, et on verra aussi pourquoi. Santo Pecorino, est-ce qu'il y a des chances que Biden ne soit pas investi par le Parti démocrate? J'ai posé la question ce matin à cette spécialiste de la vie politique américaine, elle m'a dit non, il n'y a aucune chance. C'est une tradition, un président sortant. Quand il veut se représenter, il est toujours investi par son camp, en fait. Donc il n'y a pas trop de surprise, quoi. Alors vous êtes nombreux à parler de l'âge de Biden. Je vous donnerai l'info, mais Si jamais il est réélu, à la fin de son deuxième mandat, il aura 86 ans. Voilà. Ce qui est jeune, en fait. Ce qui est jeune, par rapport à moi, par exemple. Voilà. On lira cet article. Ah, sachant que Trump, il a une nouvelle casserole aux fesses. Oh, rien du tout, hein, une accusation de viol. Donc, voilà. Je plaisante, bien sûr. Il les collectionne. Hein. Ah, c'est marrant parce que nous aussi, on a des casseroles en France, mais c'est autre chose. C'est le... il y a pas d'article ce matin. Ah, si, il y a un article dans les Échos là-dessus. Sur, tiens, je vous en parlerai peut-être des casseroles. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Une espèce de fausse ouverture. On a ça dans. C'est un, ça, c'est dans le jargon de la radio et de la télé. Quand on débute un journal, radio, un JT ou une tranche d'information, parfois on se dit entre nous, tiens, on va faire une fausse ouverture. L'ouverture, c'est ce qui débute le journal. Hein? Qu'est-ce que c'est une fausse ouverture à votre avis? Vous savez ou pas? J'ai l'impression d'être un vieux prof avec des élèves en journalisme. C'est quoi une fausse ouverture? Vous savez ou pas? Sachant que l'ouverture, c'est le début du journal. Alors qu'est-ce que... Non, c'est pas la météo. Ouais, balicou, les champions. Une info qui n'est pas dans le sommaire. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais les titres. Tu fais, allez, aujourd'hui, on va parler de Biden, on va parler des casseroles qui accompagnent Macron, on va parler de réchauffement climatique et on parlera de foot, ok? Et puis, hop, fin des titres. Le téléspectateur s'attend à ce que tu développes l'un de ces titres, bien sûr. Et tu dis, mais avant de développer tous ces titres, on va parler d'un autre sujet. Voilà. C'est un, donc ça s'appelle une fausse ouverture. Ça peut être intéressant de faire ça. Je vois que vous êtes plusieurs à avoir l'info. Ben, on va faire une fausse ouverture sur ce papier dans les Échos que j'ai pas là sous les yeux, mais que j'ai lu ce matin sur l'histoire des casseroles. Vous savez qu'actuellement, il est compliqué pour un ministre et encore plus pour le président Macron de se déplacer sans être accompagné par un concert de casseroles. Pour ceux qui suivent, tang, 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 boum, boum, boum. Alors il y a des polémiques puisque il y a eu un déplacement où il y a le préfet qui avait donné des ordres pour qu'on confisque les casseroles. Certains trouvent ça très très bien, d'autres moins bien. Il serait intéressant de voir si le président Macron, qui a un nouveau déplacement sur le terrain aujourd'hui, du côté de Vendôme, je crois que c'est dans le Loir-et-Cher, pour parler de santé, de la santé en France, est-ce qu'il y aura des casseroles? Voilà. Et donc le débat, c'est d'un côté, il y a ceux qui trouvent ça insupportable. Ça n'est pas bien de taper sur les casseroles quand il y a un homme politique qui essaie de parler. Et puis, il y en a d'autres qui trouvent ça très très bien. Vous, vous en pensez quoi? Après, je vous donne ce que disaient les Échos ce matin et après, je vous donne mon avis là-dessus. Vous en pensez quoi? Des casseroles. Toum, 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 toum. Je trouve ça ridicule, dit Caradoc. Okay. Dites-moi, vous. Vous. C'est ma fausse ouverture de ce matin. Alors. La violence faite aux casseroles, on n'en parle pas assez. J'aime cet humour. Monsieur Tourteau, t'es pas mal, toi. T'aimes bien ce que tu racontes. Caroxy est en train de coder à la maison et il nous écoute en même temps, c'est cool. Excellente idée, me dit Amirage. Je débrouille. Ils ont le droit. On dirait des enfants, se moque un peu quelqu'un dans le chat. Que ces gens sont courageux, qu'ils ont bien raison, me dit Texto Raxel. Il nous écoute pas, il n'y a pas de raison qu'on l'écoute, dit Klein là-dessus. Pour la liberté d'expression, me dit Magi35. C'est la négation du dialogue pour moi, dit Ben Aliel. C'est exactement ce que dit le président Macron. Je sais que tu es là, Manu. Je sais, Emmanuel, que tu es là. Manu. Je sais que ton pseudo sur Twitch, c'est Ben Aliel. Pas moi, hein? 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 Je sais que, entre deux trucs, tu regardes mes streams. Donc voilà, Ben Aliel, je sais que c'est toi. Hein. Je sais que tu es. Que le chef de l'État se cache derrière ce chat. En tout cas, c'est le même argument. C'est très bien, ils ne nous écoutent pas, on ne l'écoute pas. C'est une forme saine de représenter la démocratie et le désaccord. Voilà. Ok. Alors, tiens, faisons un sondage là-dessus. Et après, je vous donne mon sentiment. Pam, 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 pam. Je suis en train de faire une petite musique de casserole. Les casseroles, pour protester, puisque je vous rappelle que le message qui est porté par ces petits concerts, protester. De casseroles, c'est pour continuer à dénoncer la réforme des retraites. Hein. C'est pas juste pour faire de la musique. Hein. Les casseroles pour protester. Est-ce que vous trouvez ça bien? Pas bien. Alors c'est très binaire. Hein. Mais en gros, est-ce que vous validez? Est-ce que vous trouvez que c'est une forme correcte et sympathique dans un cadre démocratique d'exprimer son opposition, sa colère? Voilà. Moi, je vous dirai ce que j'en pense dans un instant. Suspense intolérable. Ou est-ce que vous trouvez ça pas bien? C'est l'argument du président Macron que je vais développer tout à l'heure, où il parle même d'incivisme. C'est un mot qu'il a utilisé plusieurs fois en ces derniers jours. C'est étonnant d'ailleurs, il a quasiment ressorti la même phrase hier. C'est de l'incivisme pour lui, c'est de gens qui ne veulent pas l'écouter. C'est incivisme, c'est un mot fort, hein. Voilà. Et vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. Je lance le sondage dans 2 secondes. Les casseroles pour protester, vous trouvez ça bien, pas bien, je ne sais pas, c'est parti. Tac, 2 minutes. Et je vous lis. Voilà, pas dingue d'empêcher l'expression d'un représentant politique, me dit Minax. C'est une bonne façon de protester, je trouve, me dit Nuage Gris. C'est bien pour montrer son mécontentement, son violence agressive, me dit Marino. On répond à l'absurde par l'absurde, c'est pas mal finalement, me dit Angora. J'aime bien parce que, quels que soient les avis, c'est développé, c'est argumenté. Voilà, je vois de la réflexion sur l'actualité, j'aime bien, j'aime bien. C'est un symbole, un peu comme le gilet jaune, ça permet de donner une identité à un mouvement. Ah tiens, Daruxan, c'est intéressant. C'est pacifique, je vois pas où est le problème, me dit Mitrosis. Free the casserole, me dit Mopinou. Tous les moyens sont bons pour exprimer notre insatisfaction et notre colère. Je vois le sondage en train de se fabriquer et vous allez voir, il y a, comment dire, le résultat est extrêmement clair. On a le concert qu'on mérite, me dit Caius, à propos du concert de casserole. Chucky Rainbow Shadow, comment vas-tu? Macron n'écoute pas le peuple, alors le peuple essaie de trouver un moyen de se faire entendre. Nous sommes obligés de partir dans le ridicule à cause de lui. Ok, le sondage, regardez, il est extrêmement clair. Voilà, il n'y a pas trop de suspense. Là, vous me dites qu'il n'y a pas de sondage, c'est normal parce qu'il faut faire ça et ça. Voilà. Les casseroles pour protester, c'est extrêmement clair. Vous êtes 74% à trouver que ça va, que c'est bien. Voilà, que c'est une façon correcte et légitime d'exprimer ce message que vous voulez envoyer au gouvernement, notamment sur la question de la réforme des retraites, sur le fond et sur la forme, la manière dont cette réforme a été adoptée. Vous n'êtes que 13% à trouver ça pas bien. Je ne sais pas, 13%. Maintenant que vous avez voté, je peux vous donner mon avis là-dessus, parce que je ne le donne pas avant pour ne pas influer sur le sondage. Je passe par un article que j'ai lu dans Les Échos ce matin et qui pense comme moi. Les Échos, journal assez sérieux, et un billet, un éditorial assez rigoureux d'une personne que je lis de temps en temps, dont j'ai oublié le nom bien sûr parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, et qui dit: mais on devrait se féliciter en fait qu'on ait cette expression pacifique en fait d'une colère en fait, hein, parce que c'est une colère sourde, hein, qui est là en France aujourd'hui contre la réforme des retraites sur le fond et la forme. Donc, dans Les Échos, il était écrit ce matin que bah, on devrait se féliciter que cette colère s'exprime de façon pacifique, qu'on tape sur des casseroles et qu'on ne tape pas sur des policiers ou sur quiconque, d'ailleurs. Eh ben, je suis d'accord avec ça. Bah, moi, je ne vois pas. Alors là, je sors de mon rôle de journaliste, hein, je vous donne mon avis, donc c'est un avis de citoyen, et vous en faites ce que vous voulez, c'est juste ou c'est pas juste. Je ne vois pas où est le problème. Je trouve ça joyeux, je trouve ça sympa, voilà. Quand l'argument, qui est notamment l'argument du président Macron, moi ça me choque parce que en fait ce sont des gens qui ne veulent pas le dialogue, qui ne veulent pas m'entendre, voilà, qui ne veulent pas discuter puisqu'ils tapent sur des casseroles, les prenez pas pour des jambons. C'est-à-dire que ces manifestants savent très bien ce que le président Macron a à dire, hein. Le débat dure depuis des mois, donc je pense que ces citoyens, citoyennes, connaissent les positions du président Macron sur la question de la réforme des retraites et sur le reste. Ils sont pas débiles, ils écoutent la radio, ils regardent la télé, ils lisent les journaux, je pense. En général, quand tu manifestes, c'est que tu es à peu près au courant du truc, quoi. Et donc ils le savent. Donc pour moi, c'est pas une négation du dialogue, c'est une façon d'exprimer une position qui est joyeuse et qui est pacifique. Voilà. Donc moi, ça me choque pas du tout. C'est ce que disaient Les Échos ce matin aussi. Et ce qui me choque un peu, c'est le mot utilisé par le président Macron qui est quand il parle d'incivisme, en fait. Incivisme. Je vérifie, c'est exactement ça. Incivisme. Mais alors moi, je trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas. Incivisme. C'est parce que c'est un mot très très fort. Incivisme, ça veut dire que ce n'est pas un comportement de citoyen. Bah oui, c'est ça. Bah oui, il a bien utilisé ce mot. Il a bien utilisé ce mot. Voilà. Hein, l'article dans Le Parisien, ici. Ah, c'est repris par d'autres journaux. Vous le voyez, Emmanuel Macron dénonce de l'incivisme. Voilà. C'est très très fort. Un civisme, ça veut dire que les gens qui font preuve d'un civisme sont des gens qui n'ont pas un comportement de citoyen. C'est une accusation qui est grave, en fait. Voilà. Et en fait, ça me choque. Je ne suis pas d'accord. Du tout. En fait. Au contraire, je trouve très, très, très civique, en fait. Et je trouve que c'est une façon à la fois pacifique et amusante, finalement, d'exprimer son opposition, voilà, qui est justement une non-violence, en fait. Et donc, ça n'est pas un civique, en fait, du tout. C'est une participation, au contraire, au débat citoyen, donc c'est très civique. Donc, je comprends que le président Macron soit agacé par ça, mais le choix du terme n'est pas du tout le bon, en fait. Alors, de deux choses l'une, il y a Annie qui dit il est intelligent quand même, et c'est un mot fort, exactement. De deux choses, ou il fait une erreur d'analyse. Trois hypothèses. Ou il fait une erreur d'analyse, parce que pour moi, c'est une erreur d'analyse, enfin, ça ne va pas. Deux, il se trompe de mot, mais ça fait plusieurs jours qu'il répète le même, donc je ne pense pas. Trois, je vais être méchant, mais tellement méchant, je m'en veux. Il n'a pas sa culture politique, sa culture de l'histoire politique de la France n'est pas suffisante. C'est-à-dire que quand tu connais un peu l'histoire politique de notre pays et du débat citoyen, qui peut être justement plus ou moins apaisé et plus ou moins violent, et dans notre pays, hélas, régulièrement violent, trouver qu'un concert de casseroles, ça n'est pas civique, pour le coup, c'est totalement nier l'histoire de notre pays, où justement, parfois, bah, c'est exprimé de façon beaucoup plus violente, quoi. Donc, voilà, je suis pas convaincu, quoi. Voilà. Bon, là, je sors de mon rôle de journaliste et mon avis de citoyen. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Quelle heure il est? Je regarde, je surveille l'heure pour pas prendre trop de retard parce que je vous lâche. Oh, je vous lâche. Pardon, excusez-moi. Je vous lâche assez tôt ce matin. Ouais. Je cherche des gens qui sont pas d'accord avec moi parce que c'est ça qui m'intéresse. Oui, j'ai l'abcussé là. Ouf! Oh non, mais c'est pas possible. Alors, je l'ai vraiment pas fait exprès, donc ça veut dire vraiment que mon cerveau est totalement malade, quoi. Je voulais dire, j'ai fait un lapsus et je voulais faire un truc un peu rigolo en créant un néologisme, et ça a donné ça, quoi. Ouh, ça ne va pas du tout. Je m'excuse pour ce double lapsus, là. Oh là là, c'est très étrange. Je vais, les modos, la prochaine fois, c'est ban, hein, pour Samuel, hein. Voilà, c'est ban provisoire. C'est ma chaîne, donc allez-y mollo pour la première fois, mais c'est le ban, hein? C'est pas possible, on peut pas laisser passer ça, quoi. Ok? Ok, les modos ont dit ok. Je les remercie, je les salue, salut Brobo06, salut Captain McBernick, salut Julo18, salut MMG7F, merci Petit Dragon Vert de Rage, merci Takeoff, merci Nightbot qui n'hésitera pas à me ban pour mes bêtises. Je suis désolé, hein? J'ai vraiment fourché. Neoxys, merci beaucoup pour le troisième abonnement, merci de ne pas m'en vouloir, merci Anatole11, ça me fait penser au Golgoth, Golgoth 1, Golgoth 2, Golgoth 3, Golgoth 4, Golgoth 11 contre Goldorak, peu importe, c'est très vieux, vous n'avez pas la ref, désolé, merci en tout cas pour le quatrième mois d'abonnement, René Coty fanboy, on parlait d'histoire, merci pour le 20e mois, on est au maxi, pourquoi tu me dis j'aime le jambon? Je n'ai pas la ref. Frenchy, Yu-Gi-Oh, c'est quand même, merci beaucoup pour les bits. Lewis, merci pour le 11e mois d'abonnement. Panda Nocturne, et pourtant il est 10h25 du matin, merci pour le 2e mois d'abonnement. The Voyager, merci pour les bits. Pulsar, Quasar, Nebula, merci pour le 13e mois. Egality, Jex, merci pour le Prime. Yaz, Madoka, j'avais pas vu tous ces subs. C'est quand je jure et que je dis des bêtises que vous subs comme ça? C'est très gentil. Yaz, Madoka, merci pour le 14e mois d'abonnement. Zapinon, merci pour le 16e mois d'abonnement et pour le gentil message. Dixon78, merci pour le 9e mois d'abonnement. Si j'avais su, j'aurais plus juré. Plus juré. Bon, merci encore pour les bits, French Yu-Gi-Oh! Tellement fier d'avoir appris à prononcer ton pseudo. On y va? Alors, on va lire Le Parisien pour commencer. Ça, c'est autre chose. C'est la caméra zénitale pour les journaux papier. Vous savez, ceux que j'ai ouverts à France Info ce matin. Donc, on va dire Le Parisien, pas ce dossier sur, comment dire, sur la difficulté, les délais de fou pour obtenir des papiers d'identité en France aujourd'hui, que ce soit une carte d'identité ou encore un passeport. Merci Belios 4, c'est drôle. Non, ton abonnement, c'est pas affiché dans ma petite timeline là à gauche. Donc, ça veut dire que je loupe des subs de temps en temps. On va pas lire ce sujet. Le constat, vous le connaissez, c'est super compliqué. en ce moment dans pas mal de villes et de régions d'obtenir ces papiers d'identité. C'est super long. Et parfois, il faut aller dans une ville à côté. Moi, récemment, je me suis fait un passeport. Mon passeport était arrivé à son terme, quoi. Il était plus bon. Et j'ai dû trouver une petite commune en dehors de Paris qui avait des créneaux. Enfin, il faut un peu ruser. Alors, les autorités nous promettent que ça va s'arranger. On verra. On verra. Non, ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet, je dirais même grave, et je me suis dit que c'était un petit peu d'utilité publique d'en parler ensemble ce matin pour ceux qui ne sont pas au courant, comme moi, je ne le suis pas beaucoup sur ce sujet. Apprendre des trucs et peut-être en parler autour de nous pour sensibiliser les jeunes et les familles à ce sujet qui est un sujet grave. Ces ados addicts aux antidouleurs. Joseph, c'est le jeune garçon que vous voyez ici, il avait 15 ans sur la photo, est mort à 18 ans, c'est un jeune français. D'une overdose de quoi? De médicaments, de benzodiazépines et d'opioïdes. Il y a un téléfilm ce soir sur France 2 qui raconte son histoire et celle des jeunes accros à ces médicaments. Lisons un petit peu. Donc vous avez vu que j'ai pas mis de Stabilo parce que j'ai oublié les articles à France Info, mais on va se débrouiller quand même. Combien de parents seront ce soir devant leur télé? Une fois n'est pas coutume, les écrans auront ce soir du bon. C'est un peu un truc de boomer, ça. C'est bien les écrans en fait, ça dépend comment on les utilise, c'est juste un outil. Mais au-delà d'émotions évidentes qu'il procure, le téléfilm Maman ne me laisse pas m'endormir est une œuvre de salubrité publique. Donc c'est ce soir sur France 2, il y aura un débat médical après. Et en fait, ça retrace l'histoire vraie de Joseph, décédé à 18 ans d'une overdose de Xanax et de fentanyl, un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne qui a fait cesser son cœur de battre. Mort d'avoir cru que les médicaments ne pouvaient pas que soigner, mais pouvaient tuer aussi. C'est quand le médicament est détourné pour devenir de la drogue. Donc, pardon, c'est demain soir, excusez-moi, je viens de dire ce soir. C'est demain, merci. Joseph n'est pas un cas isolé, nous explique l'article. C'est en cela que cette fiction, portée à bout de bras par sa maman, Juliette, qui est ici en fait, hop, ça c'est la maman du jeune homme, et c'est par sa maman. Et l'actrice et réalisatrice ici, Sylvie Testu, que cette histoire a pu être portée à l'écran. Voilà. 1h30 donc de film, demain soir sur France 2, pour lever le voile sur ce phénomène mal connu et tabou, la défonce des adolescents avec des comprimés qui parfois se trouvent dans nos armoires à pharmacie à la maison. Voilà. Et donc c'est un des conseils que donne l'article d'ailleurs, c'est les parents, attention aux médicaments que vous laissez traîner. À la maison, notamment ces benzodiazépines, hein, ces anxiolytiques, hein, ces Xanax, ces Lexomil, ces Valium, qui agissant sur le système nerveux central, et aussi les opioïdes, les tramadol, les codéines, hein, ces antidouleurs de synthèse ou dérivés de l'opium, dont certains adultes et jeunes font mauvais usage, qu'ils consomment, qu'ils surconsomment comme des bonbons jusqu'à en devenir accro. J'en vois de plus en plus jeunes, explique une addictologue qui s'appelle Amine Beyamina. C'est ce que confirment les chiffres. Selon l'Observatoire français des médicaments antalgiques, les hospitalisations pour surdose accidentelle d'opioïdes ont bondi de 246% entre 2000 et 2021 et les décès de 192% entre 2000 et 2017. Voilà, concrètement, écoutez ce chiffre pour vous rendre compte que ce n'est pas un phénomène isolé. Tous les 8 jours, pardon. Concentre-toi, Samuel. Tous les jours, 8 personnes de tout âge sont conduites à l'hôpital pour une overdose. 8 personnes tous les jours. Voilà. Avec cette seule classe médicamenteuse qu'on vient d'évoquer, quoi. Hein, je crois que c'est les opioïdes. Okay. Et plus de 4 personnes meurent en France chaque semaine. Je continue, après je vais vous lire, hein, parce que peut-être que certains vont vouloir témoigner aussi de situations que vous avez vécues, que des proches ont vécues. Donc ça n'est pas un phénomène médiatique, il y a vraiment des gens qui vont à l'hôpital, voire qui trouvent la mort en raison de ces overdoses de médicaments. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis, qui a encore une ampleur beaucoup plus importante, mais voilà, il y a une évolution qui est un peu préoccupante, disent les médecins en France. Donc, Le problème n'est pas dans les molécules elles-mêmes, hein, bien sûr, vous l'avez compris, qui sont très utiles, qui sont des médicaments, notamment les antidouleurs, qui peuvent être très utiles aux gens qui souffrent, mais dans leur utilisation détournée, hein, et prolongée. Le piège est là, elles sont aussi efficaces qu'addictives. L'histoire de ce jeune garçon, la voici. Pour Joe, comme tout le monde l'appelait, cela commence à 15 ans. L'ado qui fumote des joints, a du mal à trouver le sommeil, il sent dans son ventre une boule. Merci Martin, je vais te remercier pour le gentil raid dans un instant. On est en train de parler de l'addiction aux médicaments et de tout ce que ça peut entraîner. Donc il a mal au ventre, il a une boule, il demande à consulter. Le médecin lui prescrit du Xanax. Voilà. Sa maman Juliette est extrêmement surprise, mais le médecin lui dit: Madame, je vous assure, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des cachets. Voilà. Pour Joseph, la messe est dite, il ne dort pas mieux, mais il devient irascible. Max, son cadet de 2 ans, le voit planquer des médicaments dans ses chaussures. Sa tante Sophie, un jour, appelle sa maman et dit Joe est venu à la maison et l'exomile a disparu. Voilà. Xanax, pour la douleur, s'interroge DH. Écoutez bien, je viens de vous dire que le jeune homme, il a consulté parce qu'il ne dormait pas. Faut écouter, hein? La suite est une lente chute que ses parents ont tenté en vain d'arrêter à coups d'hospitalisation, de tendresse, de remontrance, de présence. Ils ont tout essayé. Un enfant bien né, enfin, dans un cadre privilégié, qui n'avait pas de soucis a priori, avec certes des parents divorcés, mais aimés, entourés, rigolos, beaux garçons, etc. Si ça a pu lui arriver, ça peut arriver à n'importe quel enfant, hein, dit sa maman. Son fils a donc rendu son dernier souffle dans ses bras le 29 décembre 2016. Quelques heures plus tôt, il s'était en effet procuré un mélange de benzo et d'opioïdes dans une fête foraine où les dealers côtoient les marchands de barbapapa. Voilà. Contrairement, c'est ça le problème, à l'héroïne, au crack, eh bien, on ne se méfie pas des comprimés, on étant souvent les parents, des comprimés légaux conçus pour soulager un faux sentiment de sécurité, selon Sylvie Testu, qui est la réalisatrice du film. Voilà. On est alerté des effets des drogues, bien sûr, mais l'addiction aux médicaments, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, est assez inconnue, ignorée. Le monde des adultes est un petit peu déconnecté par rapport à ça. Avant, c'était pas entre guillemets la mode de se défoncer aux médicaments. On se demande aujourd'hui si son enfant a bu, a fumé, a pris de la drogue, mais pas forcément s'il s'est shooté aux médicaments, quoi. Tu vois, là, je parle du fentanyl, justement. Et KBD Ninja écrit: le fentanyl, c'est un fléau en ce moment en Amérique du Nord, c'est la drogue zombie qui fait des ravages. Exactement. Alors, il n'est pas encore arrivé au niveau des États-Unis, mais ça commence à être inquiétant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. C'est ce que pense aussi le professeur Nicolas Autier, qui est pharmacologue, qui veut sensibiliser les parents et qui dit ça. Il dit: prendre une drogue, c'est d'abord la rencontrer. C'est pour cela qu'il ne faut pas garder à la maison les boîtes qui ne sont plus utilisées. Et les médecins aussi, hein, pas de prescription automatique, toujours sur de courtes durées. Et c'est un message qui commence à passer puisque les ordonnances d'opioïdes ont diminué en France ces dernières années. Voilà. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce sujet. Ça, c'est la maman. Voilà. Le téléfilm, c'est on va essayer d'aller voir la bande-annonce. C'est mercredi soir sur France 2. Hop, on va essayer de le trouver tout de suite d'ailleurs. Hop. Donc on va faire maman. Le titre du téléfilm demain soir sur France 2, c'est Maman. Je le cherche, j'ai oublié. Où est-ce qu'il est? Maman ne me laisse pas m'endormir. Voilà. Est-ce qu'on a une bande-annonce quelque part? Ouais, ici. Voilà. On va regarder ça.
Elle était
ici.
Maya, elle était consentante.
Joseph, vous étiez tous les deux sous l'emprise de médicaments, d'accord? Bon, d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui lui en as donné?
Bah, elle voulait essayer. C'est elle qui m'a demandé, hein. Je l'ai pas forcé, je vous jure. Ouais, c'est bon, Maya, elle est comme moi, c'est une fêtarde. Et puis, c'était pas la première fois, on avait déjà couché ensemble.
Ouais, et court cet extrait. Manifestement, c'est le seul extrait qu'il y a, quoi. Ouais. Voilà, c'est un sujet important. Moi, je sais que j'ai déjà eu ce type de médicament à la maison. Un truc, un opioïde super fort. Je me suis blessé un jour assez fort sur un tournage. Je me suis pété plusieurs côtes, donc ça, c'est rien du tout. Mais surtout, je me suis tapé la plèvre, qui est une zone super innervée. Et j'ai fait un début de pneumothorax. J'ai vécu des douleurs comme jamais j'avais ressenti, quoi. C'est-à-dire que je pouvais pas bouger d'un millimètre, quoi. Donc, on m'a prescrit ce type de médicament, ces opioïdes extrêmement forts. Très 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 fort, et j'ai découvert la puissance de ce médicament, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert d'abord l'efficacité, c'est-à-dire que si tu bouges un millimètre, tu hurles, tu prends le truc et c'est finito. Enfin, disons, ça te soulage quand même pas mal, quoi. Donc j'ai découvert la puissance de ce médicament, j'en ai pris une semaine, je crois, et j'ai découvert aussi l'addiction du truc. C'est-à-dire qu'au début, t'en prends, ça te rend un peu malade, tu vomis un peu parce que c'est très très puissant, et puis le corps s'habitue. Et puis, quand tu dois arrêter, en fait, tout ton corps réclame le truc. Réclame le truc. C'est-à-dire que, au moment où tu t'arrêtes, bah justement, tu as les maux de ventre qui arrivent, tu te sens pas très 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 bien, et en fait, tout ton corps t'envoie le message qu'il faut en reprendre pour être bien. C'est hallucinant la puissance du truc. Et j'ai compris ce que c'était l'addiction. Et là, mon regard sur les gens qui souffrent d'addiction à quoi que ce soit d'ailleurs, a changé parce que j'ai compris à quel point ça pouvait être fort, quoi. C'est-à-dire que j'en ai pris une semaine, quoi. Une semaine. Et alors, évidemment, j'ai arrêté, quoi. Mais c'était fou comment mon corps réclamait le truc, quoi. Alors là, moi, je l'ai pris dans un cadre médical parce qu'effectivement, je souffrais fort. Et puis après, les douleurs sont parties, donc je n'ai plus besoin. Mais je me mets à la place de gamins qui testent ces trucs, ben je suppose qu'ils doivent rentrer dans cette addiction aussi. Et d'un corps qui, à un moment, le réclame, quoi. Voilà. Ça, c'est mon expérience. Je vous lis un petit peu maintenant là-dessus. Salut Martin Martin et merci encore pour le raid. Allez voir la chaîne de Martin Martin M2X, meilleur DJ ever sur Twitch. Merci à ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, quand on m'a donné les médicaments à la pharmacie, je peux vous dire qu'on vous regarde bizarrement quand vous arrivez avec l'ordonnance avec ce type de médicaments. Et c'est sur le coup, je comprenais pas, puis après j'ai compris. On vous regarde quand même très très bizarrement. Voilà, on regarde l'ordonnance à deux fois, on vous explique que ces médicaments, ils ne l'ont pas en stock, qu'il faut qu'ils les commandent, voilà. Ils le mettent sous clé, voire sous coffre, quand vous venez les chercher, voilà. Ils regardent 10 fois l'ordonnance, ils vous posent des questions pour voir si c'est pas une ordonnance trafiquée et tout, voilà. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je me dis, mais ça va, quoi. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi. C'est vraiment des médicaments très particuliers. Astremoon dit, on m'a prescrit des opioïdes, j'avais peur de devenir accro. La meilleure chose est de s'en débarrasser à la fin de sa prescription. Oui, exactement. Exactement. La délivrance à l'unité ne pourrait-elle pas être un petit début de solution? Thierry Le Teutrat a tellement raison. Moi, malgré cette méfiance à la pharmacie, on m'a donné des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes, bien plus que ce que j'avais besoin. Et du coup. Pendant un moment, j'avais encore les boîtes à la maison. Ils auraient pu imaginer que j'aurais pu être tenté d'en reprendre, ou qui sait si j'avais eu des personnes à la maison potentiellement intéressées par le test de ces trucs-là, des ados par exemple, là, ils auraient pu y avoir accès. Donc oui, très bon conseil, ce truc-là, quand vous n'avez plus besoin, vous le balancez à la poubelle, ou mieux, vous le ramenez au pharmacien d'ailleurs. Merci Aurélien pour le 5e mois d'abonnement. Sugar Toxic, merci pour le 20e mois. Martin Martin, merci pour le 13e mois. Brigitte 63, merci beaucoup pour le 8e mois. Vous êtes formidable. À propos de l'addiction, Caradoc écrit, le cerveau finit par te faire croire que tu as mal pour avoir sa dose. Exactement. Ramener toujours aux médicaments, voilà, aux pharmaciens. Voilà, le dit Tiloax. Faut pas les jeter, faut pas les jeter. Bien sûr qu'il faut pas les jeter. Bien sûr faut pas les jeter. C'est à la pharmacie. Ah oui, c'était Oxy, truc là. Voilà. Ouais. Shokagumo me demande c'était quoi? Oxycontin, je crois. Voilà, c'était Oxy quelque chose. C'est ça que j'avais. Oh, d'une puissance, le truc. D'une puissance! C'est fou. Oxy, je sais pas comment ça s'appelait. Quelqu'un m'a envoyé peut-être. Ok, voilà. Tramadol paraît très fort. Voilà. Donc ben voilà pour cet article. Quoi? Encore? Non, trop... Merci Marvalo pour le raid, vous êtes super. Merci pour le raid. On vient, pour ceux qui nous rejoignent, de lire ce papier dans le Parisien qui me semble important sur le danger, voilà, de voir des adultes ou des jeunes en France détourner certains médicaments pour les transformer en drogue. Et c'est extrêmement dangereux pour la santé et ça mène parfois à la mort, comme ce jeune homme ici qui est mort à 18 ans et dont un téléfilm sur France 2 demain soir mercredi raconte l'histoire. Voilà, je voulais vous en parler, ça me semblait extrêmement important. Normalement, quand on lit le Parisien, on fait l'horoscope dans la foulée, mais je ne vais pas faire l'horoscope, notre petit délire sur l'horoscope dans la foulée de cet article, on le fera un petit peu plus tard. Mais je vois que vous êtes, pour le coup, vous, plutôt au courant de ce genre d'histoire. J'ai l'impression que je n'ai pas appris grand-chose à grand monde. Parce que vous êtes un public informé. N'hésitez pas à en parler autour de vous quand même de ça, parce que je pense que plus on sensibilisera les jeunes et les parents, et plus on peut-être on évitera des trucs, puisque comme le rappelle l'article de façon extrêmement intéressante, les parents sont sensibilisés à la question de la drogue, mais pas forcément à l'utilisation du détournement des médicaments. Voilà. Il y a même G7F qui est royal avec moi, qui me dit sur ce point, je te donne raison, Samuel. Je ne sais pas quels sont les autres points, mais merci beaucoup, M7F, de me donner raison sur ce point. Merci de ta grandeur d'âme. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ton Prime. Aurélien, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Ça, c'est intéressant aussi. Mais on parle toujours des jeunes. C'est assez. Mais ça, je n'étais pas. Voilà. Là, par contre, j'ai vraiment appris un truc. Je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas que ça existait, ça. Voilà. Peut-être parce que mes enfants ne sont pas encore assez grands. Surveillance numérique, mes darons sont des espions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes darons sont des espions. Appli bancaire, logiciel scolaire, traceur GPS, les dispositifs censés faciliter l'organisation de la vie familiale, décuplent aussi l'angoisse des parents, tout en empiétant sur la vie privée des enfants et des ados. Alors ça, moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je vous lis l'édito qui résume vachement bien, en fait, tout le dossier, là, l'éditorial qui est signé Lorraine Prevot, puis on en parle un petit peu après, notamment s'il y a des parents ici. La une est moche, pour une fois, ils ont craqué les graphismes, dit des Romains, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai qu'elle est moche. C'est limite pas trop digne de Libé, ça. Ouais, t'as raison. C'est pas terrible. Tu as raison. Le tweet de Pépipin est exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle a tweeté, ma Pépipin? Ma graphiste préférée. Alors, Pépipin, où es-tu? Ouais, elle est pas terrible cette une de Libé. Hein. Pépipin, où es-tu? Pépipin. Qu'est-ce que. Et le tweet a. J'espère que le tweet est bien. Sinon je vais râler. Hein. Il est où le tweet? Oh! Ah, le tweet! Oh! Regardez. Sam Dalf Leblanc sur la magie Étienne. Oh, c'est moi! C'est moi! En Gandalf! Oh, je clique. Oh, c'est moi! C'est moi en Gandalf! Oh, tu as des cheveux dessus, donc c'est plutôt gentil comme tweet. Arnaud, vous avez fini, oui. Oh, c'est moi! C'est moi en magicien. Le front de Dingus. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il a, mon front? C'est moi avec des cheveux. Arrêtez, bordel, j'en ai des cheveux. Fais-moi un feu d'artifice, Gandalf. Je me dis, mais tu vas voir, je vais t'en faire un feu d'artifice, moi. Oh, l'insulte. On dirait Francis Lalanne. Ah, ça, c'est méchant, ça. Ça, c'est méchant, ça. Comment ça, il fait un peu peur? Oh non. Oh, j'adore. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Comme on est beaucoup plus intelligent, malin et drôle. Ah, vous êtes combien là? Vous êtes combien là? Vous êtes. Ah, vous êtes presque 4000. Ok. C'est beaucoup, merci beaucoup. On va retweeter, mais avec humour, avec intelligence, avec subtilité, ce truc-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour être drôle? retweet, citer le tweet. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait pour à la fois remercier donc Pépin et faire une petite vanne. Déjà, Francis Lalanne, il y a moyen de faire une petite vanne autour de Francis Lalanne. Quoi. Genre Gandalf le Blanc ou Francis Lalanne. Un truc un peu comme ça. Ce serait drôle, ça. Hein, ça pourrait être pas mal, ça. Un rapport avec la retraite, je pense. Ah, pas mal aussi. Pas mal. Qui veut gagner des anneaux, hein? Qui veut gagner des... Oui. J'ai la ref. J'ai la ref. Ah oui, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. La désinformation passera pas. Trop bien. Oh, pas mal. Pas mal. Ouais. Francis Lalanne. Francis. Il a vieilli, Francis Lalanne. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Gandalf Lalanne. Oh oui. Ah oui. Ah oui, Gandalf. Ah oui, j'aime bien. Je ferais bien un truc genre Gandalf le Blanc ou Gandalf Lalanne. Ouais. Francis le Blanc ou Gandalf Lalanne. Un truc un peu comme ça, quoi. J'adore. Question pour Aphrodon. C'est bon ça. L'anneau Étienne. Oh, je vous lis le message de East qui est tellement sympa. Bonjour Sam et le chat, j'étais venu chercher du soutien et du courage ici le jour de mes euros de concours, je me rappelle, que j'ai obtenu et votre soutien y aura participé. Merci beaucoup, bon stream à tous. Ouais bah, trop bien. Gandalf, allez, ouais. Voilà. Un Francis pour les contrôler tous, ok. Le seigneur des infos, la magie Étienne, la communauté Étienne. Voilà ce qui arrive quand on travaille 20 heures par jour jusqu'à 65 ans. C'est bon aussi, ça. C'est bon, ça. Oh, Francis, là, tu veux mon bâton? Tu veux mon bâton? La communauté de l'info. Ah, c'est bon. Ah, la communauté de l'info, c'est pas mal. Ah, tout est bien, tout est bien. Le seigneur des infos. Voilà. Le mage de France Info. Samuel Gandalf, le faux mage blanc. Le faux mage blanc. Oh, le faux mage blanc. Oh, le faux mage blanc, le fromage blanc, le faux mage blanc. Oh, c'est bon. Ça, ah, j'aime bien ça. Il y a Angel Striper qui vient d'écrire Samuel Gandalf, le faux mage blanc. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein? C'est beau. Hein? Hein? C'est pas mal. Vous validez ou pas? L'info, hein? Oh, l'info mage blanc. La blague est validée. Cyril est en colère. Mais arrêtez avec tous ces jeux de mots claqués au sol. C'est pas mal, fou mage blanc. Hein? J'ai envie de faire ça, moi. Concours de la plus grosse blague de Daron. Ouais, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait. Je ne valide pas, tu veux voir mon bâton, ça je ne valide pas. Gandalf Etienne, ouais. Ok. Le fromage blanc, c'est très, très très naze. J'adore, j'adore. Non, le chibre blanc, non, je ne valide pas. Non. Fromage blanc. Question pour un bâton. Bandalf le gland. Arrêtez, bordel. Vous ne tweeterez pas. J'aime bien. La communauté de l'info, c'est pas mal. Genre le faux mage blanc. Alors, j'hésite, tout est drôle. Bandalf le gland, c'est vraiment excellent. Non, non, je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Non, arrêtez avec Bandalf le gland, c'est exceptionnel. Non, 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 non. Ah, j'hésite entre la communauté de l'info et le faux mage blanc. J'adore le faux. En fait, j'ai un vrai coup de cœur pour le faux mage blanc. What? Sam, le faux. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que j'ai pas retweeté. pense pas. Une bêtise, je pense. Citer le tweet. C'est parti. Annuler, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, je crois que j'ai dû tweeter par erreur, moi. Non? Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, c'est parti. Citer le tweet. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors. Sam. C'est bon ça? On va vous valider ou pas? Ah, de la communauté de l'info. Ah, on met les deux? Alors j'enlève le Sam du coup. Hein? On met les deux? Ok. Alors j'enlève le Sam, je pense qu'il n'y a pas besoin. Le fromage blanc. Ok, c'est parti. Le faux mage blanc de la communauté de l'info. Pas mal ça. Allez. Bon, là. Quelle heure il est? Pff, dans une heure, je suis obligé de vous abandonner. Ça accélère un petit peu, petit Sam. Si tu finis avec tu veux mon bâton, c'est top. Bien sûr. Voilà, le tweet est tweeté. Donc sans le badge, hein, puisque maintenant il n'y a plus de badge. Hein. Merci Elon. Voilà, c'est parti. Et voilà. Alors, et en quelques secondes déjà, c'est parti. J'adore quand on tweet ensemble. Bon, et je reviens à l'histoire des darons qui sont des espions là. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je vais vous lire l'édito, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord? Ici, on parle de parents poules. Hein, c'est de notre côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, des parents hélicoptères. Aux États-Unis, on parle des parents hélicoptères. Ces parents qui volent donc au-dessus de leurs enfants afin de prévenir tous les dangers possibles. Et dans le chat, il y en a, puisque tout à l'heure, il y en a qui n'étaient absolument pas choqués par le fait qu'on surveille les enfants de toutes les manières possibles et imaginables grâce à la technologie. Mais d'innovation en innovation, nous voici entrés dans l'ère du parent panoptique. Alors ça... Oh, putain, il y a la fesse de moi qui me dit qu'il a eu genre une caméra dans sa chambre pour le surveiller, quoi. Alors qu'est-ce que c'est panoptique? Moi, je vous découvre un mot, là. Les parents panoptiques. Qu'est-ce que c'est un papa panoptique? Est-ce que c'est un papa qui a perdu ses lunettes? Et donc qui est en panne d'optique? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est un papa panoptique ou une maman panoptique? Le panoptique est un dispositif spatial qui permet d'embrasser... Ah, pan, partout. Ah, bien sûr. Ah, oui. D'embrasser du regard la totalité d'un espace et donc une surveillance continue des individus. Ah, là, 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 là. Ça, alors. Vous saviez ça, vous? Tiens, Larousse, vous saviez ça, vous? Alors, se dit notamment d'un bâtiment dont, d'un pont d'observation interne, on peut embrasser du regard tout l'intérieur. Panne optique, panne partout. C'est incroyable, hein? C'est vachement intéressant. Ok. Donc, désormais, on parle avec la technologie, de parents panoptiques, fliquant leur progéniture incognito 24 heures sur 24. Grâce à un écosystème de quoi? Eh bien d'applis, d'applications et de mouchards en tout genre. Attention, il ne s'agit pas de faire un nouveau procès aux parents après le débat du fil dans ta chambre. Fichons-leur la paix une bonne fois pour toutes, dit Libération aux parents, tout en admettant qu'ils font dans la grande majorité du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants. C'est vrai que bon, être parent, c'est pas toujours facile. On fait souvent au mieux. Donc Libération, déjà, il ne s'agit pas de faire le procès des parents. Mais quand même, ouvrons les yeux sur les vendeurs d'applications, d'outils numériques qui font leur beurre sur ce sentiment qui naît en même temps que nos enfants et qui ne nous quitte jamais vraiment l'inquiétude. Et bien sûr, et je suis dans le chat, je suis sûr que là vous êtes 4000, je suis sûr qu'il y a des parents dans le chat et notamment qui surveillent beaucoup, voilà. Et c'est, alors Libération dit, c'est pas forcément très très bien quand ça va très 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 loin, mais c'est, voilà, c'est compréhensible. pour les raisons qu'on vient d'évoquer, pour ce sentiment d'inquiétude qu'ont naturellement les parents pour les enfants, pour leur progéniture. Être parent en 2023, c'est se voir proposer, contrairement aux générations passées, eh bien de soulager ses angoisses grâce à des outils de flicage aux promesses marketing aussi attrayantes que terrorisantes. Nul besoin d'être pédopsy pour concevoir que suivre son enfant à la trace sans qu'il ne le sache, ou écouter ses conversations grâce à une montre connectée peut grandement nuire à son autonomie et à la relation de confiance. Mais la surveillance parentale à outrance, c'est aussi découvrir ses notes en direct via Pronote, sans lui laisser le temps de réfléchir à comment annoncer son loupé en maths. C'est aussi être notifié du moins de ses achats non essentiels grâce à une banale application bancaire. Le contrôle permanent de nos enfants s'est ainsi initié dans les outils du quotidien, et cela est loin d'avoir offert plus de liberté de mouvement ou de sécurité aux plus jeunes. Alors, pour ne pas tomber dans le piège du papanoptique, voilà, je ne suis pas un papanoptique, mais peut-être que j'aurais pu être tenté un jour de le devenir. Moins peut-être avec cet article de Libération, il faut commencer par en prendre conscience. C'est pour ça qu'on va échanger ensemble. J'ai l'impression de diriger une séance aux Alcooliques Anonymes. On va en parler ensemble. Oui. Qui es-tu ? Présente-toi. Qui es-tu ? Tu rentres dans le cercle. Personne ne va te juger ici. C'est fou. Il faut commencer par en prendre conscience, puis apprendre à y résister ou utiliser ces outils en bonne intelligence. Une mission de plus dans votre bonne longue journée de parents. Bonne chance, nous dit Libération. C'est vrai que c'est quand même un des métiers les plus durs au monde, celui d'être parent. Point of view. Heureusement, je suis né avant tout ça. Mes parents avaient ces technos auraient été encore pires. Vous êtes nombreux comme Antoine, ça me parlait d'un épisode de la série Black Mirror. Alors j'ai vu Black Mirror, mais je n'ai pas tout vu. L'épisode Archange où une mère pose un implant sur sa fille. Vous êtes plusieurs à l'avoir vu. Ça a l'air très intéressant, je ne l'ai pas encore vu. Alors je vous lis. On peut avoir la rêve de cet article, bah, il est sous tes yeux la rêve de cet article, c'est Libération, c'est page 2. Je ne peux pas t'en dire plus. Tu télécharges Libération, ça va te coûter 1€ et des brouettes, ou tu l'achètes en kiosque, ça te coûtera un tout petit peu plus cher, mais tu vas le trouver, quoi. C'est sur... C'est sur Libération. Oui, voilà, le souci de cette surveillance exagérée, hein, évoqué par Libération, c'est, comme le dit Da Velocity, ça n'aide pas dans la construction de l'enfant et dans le manque de confiance qu'il peut développer chez ses propres parents. C'est pas faux. Je pense que l'enfant, pour se construire, il a besoin de cette confiance absolue envers ses parents, et c'est le jour où il découvre que ses parents peuvent mentir, peuvent lui mentir, voire l'espionner, et donc en niant la relation de confiance qu'on est censé avoir, c'est vrai que ça peut... c'est pas terrible, quoi. Moi, je sais par exemple que quand je sors avec mes enfants dans des milieux, dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ils sont tout petits les miens, ils ont 6 et 3 ans, donc quand on va dans un endroit où il y a gavé de monde, je leur mets un petit tag, un petit tag à la ceinture, pour si jamais ils se perdent en fait, pour les retrouver avec mon téléphone. Mais je leur dis. Je leur dis, voilà, je te mets la petite montre magique, j'appelle ça. Ça me permet de te retrouver si tu te perds, quoi. Donc, si tu te perds, je leur dis, ne bouge pas, je viens te chercher grâce au truc, quoi. Et j'espère que jamais je n'espionnerai mes enfants, quoi. Après, je comprends le moteur de tout ça, hein. On s'inquiète pour les enfants, la sécurité et tout ça, quoi. Comme le dit Yujido, à court terme, ça peut marcher, mais à long terme, les ados, plus ils sont surveillés, plus ils vont vouloir contourner les choses et vous la mettre à l'envers, c'est contre-productif. Oui, je crois. Coucou Étienne, tu peux m'appeler Sam quand même. Hein. Levneg, ma maman te dit bonjour, je dis bonjour à ta maman aussi. Voilà. Ma mère me surveille même sur LinkedIn, me dit Tilox. Un peu, pourquoi pas, me dit Belios, mais surtout pas de manière cachée. Bon, on est assez d'accord. Hein. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat n'était pas d'accord avec ça. Hein. Je vous lis. Je remercie Captain McBernick pour l'abonnement offert à East. Merci à toi. Nanville, merci pour le Prime. Pierre-Emmanuel, Daft Punk. Joli pseudo, merci pour le 3e mois. Jean-Sébastien, merci pour le 2e mois. Marvalo, merci pour le raid de tout à l'heure. Encore. HB nous le dit en rigolant, j'en suis sûr. Moi aussi, j'utilise les AirTags, mais pour ma femme et ma copine. C'est le combo. Évidemment que c'est une blague. Et ça, c'est strictement interdit. C'est interdit par la loi. Et c'est interdit moralement, bien sûr. Tu n'espionnes pas les gens. Hein, tu n'espionnes pas les gens. Super idée le tag, Samuel. J'ai cru avoir perdu ma fille un jour, c'était horrible, me dit l'ami Zanthrope. Je t'avoue qu'on a commencé à faire ça quand un jour on était au supermarché avec Malo. Et en fait, à un moment, hop, c'est 2 secondes, hein, c'est 1 seconde. C'est-à-dire qu'on était tous les deux avec Malo, à le surveiller comme toujours quand on surveille un enfant qui est pas très très grand, quoi. Et puis, hop, on tourne la tête, et hop, il est plus là. Et comme les rayons, en fait, un enfant disparaît très très vite derrière un rayon. On était deux pourtant et on a mis, ça nous a semblé une éternité, mais genre 5 minutes à le retrouver. Et en fait, il était à quelques mètres de nous, mais caché par un rayon. Il était allé voir un rayon de bonbons, quoi. Et de ce jour-là, on s'est dit, quand on va dans des endroits comme ça, il faut mettre un petit AirTag, quoi. Il y a Annie qui rit parce que ces garçons sont grands maintenant et du coup la taxe est sur le chien. Alors c'est illégal de faire ça avec un tag, me dit mea culpa. Oui, c'est illégal si tu ne préviens pas la personne. Voilà. Donc tu voilà. De toute façon, normalement, le fameux AirTag d'Apple, quand la personne elle-même a un iPhone, en fait, ton iPhone te signale que tu as un moment quand ton iPhone détecte en fait un AirTag qui n'est pas à toi dans ton entourage et qu'il reste un petit peu, ton téléphone te le dit. Normalement. Le téléphone te dit attention, vous avez un AirTag près de vous. C'est comme ça que tu peux retrouver hein, les éventuels jaloux jalouses là qui ont prévu de mettre des AirTags dans le sac de votre amoureux, de votre amoureuse. Sachez que normalement, si la personne a un iPhone, l'iPhone doit lui le dire en fait. Normalement, ça fonctionne comme ça, quoi. Bon, vous êtes assez d'accord hein, sur le sujet en fait. Hein. Je vois pas de gens qui disent oui, mais voilà. Il y a Rochon qui dit, je pense que je serai une maman protectrice. Bah, j'espère, tu as raison. Mais jamais je n'irai jusque-là parce que je ne voudrais pas que ça détériore la confiance et notre relation. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Vous pouvez, pour le bien de l'enfant, pour sa sécurité, vous pouvez vachement abîmer sa relation à cet enfant si la confiance, elle disparaît parce que vous espionnez, quoi. Vous cachez, en fait. Moi, je donne l'exemple, par exemple, de quand j'étais ado, il n'y avait pas tout ça, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de téléphone portable. Par contre, je recevais des lettres, parce qu'on s'écrivait les ados, voilà, de copains, de copines. Et en fait, mes parents n'ouvraient pas mon courrier, mais j'avais été extrêmement choqué parce que j'avais appris que dans mon entourage familial, pas trop lointain, eh bien, les parents ouvraient les lettres, les courriers reçus par les enfants, par les ados, quoi. Voilà, et d'ailleurs, bon, c'était compliqué d'ailleurs dans cette famille pour plein d'autres trucs, mais je pense que c'était un des trucs dans l'éducation, il y a des trucs qui n'allaient pas en fait. C'est beaucoup trop dur, quoi. Beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur. Et voilà, c'est abusé en fait. Arrêtez, bordel, c'était pas des pigeons voyageurs quand même, hein. C'est fou ça. C'est pas parce que je suis né au 19e siècle qu'il faut. C'est incroyable ça. Voilà. Caduvernois a réfléchi à tout ça et nous dit le rôle des parents est entre autres d'apporter des limites. Mettre un contrôle parental sur les accès numériques des enfants, ça bien sûr me semble approprié. Oui, 100%. Mais toujours en concertation avec l'enfant. Toujours en concertation avec l'enfant. Ah, c'est bien. La surveillance en cachette peut rassurer les parents mais ne permettra pas à l'enfant de prendre son envol. Super. Ouais, je dis yes à ça. Je dis amen à ça. Oui, je suis né au 19e, je suis né en 1827. Tout à fait. Tout à fait. Certains sont tellement moqueurs qu'ils pensent que je n'étais que c'était même pas les pigeons voyageurs à mon époque, mais les ptérodactyles, ce qui est vraiment très méchant. Vous êtes méchant, 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 vous êtes tellement méchant. Vous êtes méchant. Alors, notre petit tweet a eu du succès, puisque c'est amusant, regardez. Là, c'est le tweet que nous avons fait ensemble. Voilà, j'aurais dû d'ailleurs le dire que c'était écrit par la communauté de l'info. Donc, nous avons retweeté le tweet de Pépin, le faux mage blanc de la communauté de l'info. Et regardez, les commentaires sont adorables. Voilà, tu veux mon bâton, le fromage blanc de la communauté de l'info, j'adore, France Info, Harry Potter de Samuel Etienne, ça ne m'étonne pas de la part de Pépin. Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits par des gens qui sont dans ce live ce matin. C'est drôle, c'est drôle. Je vous reconnais, hein, parce que je retrouve des commentaires que j'ai vus dans le chat aussi. J'adore, j'adore. On vit dans un monde qui est fascinant. Enfin, venant de quelqu'un du 19e siècle, pour moi, c'est vraiment fascinant. Ok. Et on enchaîne, ça va, on est bien. Hop, je retourne à Libération. Ce matin, je ne vous ai pas mis 1000 articles de côté, mais je trouve que je vous ai mis des articles importants. Par exemple, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, en écoutant la radio, la télé ces derniers jours, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe au Soudan? Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Je me suis posé la même question que vous. Voilà. Et j'ai trouvé l'article qui, je trouve, explique bien ce qui se passe au Soudan. C'est dans Libération, c'est pages 8 et 9. Lisons. Parfois, tu auras un fait d'actualité, comme ça, je mets. Parce qu'il ne s'agit pas de ce. Moi, je crois que la rapidité, la course à la rapidité en information, c'est dangereux. Plus on va vite, moins on s'informe bien, quoi. Et idem pour les émetteurs d'infos. Plus on essaie d'émettre une info vite pour battre la concurrence, et moins on va vérifier, moins on va creuser, moins l'information va être de qualité. Et là, j'ai pris 2-3 jours justement pour vous trouver un bon article sur le Soudan, et je l'ai trouvé. Soudan, un pays ravagé par une rivalité. Plusieurs centaines de ressortissants étrangers ont pu quitter le pays, vous avez peut-être vu les images, en proie à une guerre entre deux généraux rivaux et malgré les appels au calme, le conflit semble dans une impasse. Grâce à Libération, on va assez bien comprendre, je crois, ce qui se passe actuellement au Soudan. Alors, les images, vous les avez peut-être vues de ces convois de voitures et de bus qui continuent de quitter Khartoum, la capitale, emmenant ressortissants étrangers et habitants soudanais hors de la capitale, loin des combats. Parce que les combats font rage depuis, il faut le rappeler, hein, une dizaine de jours maintenant. Par air, terre ou mer, les opérations d'évacuation organisées par différents pays se poursuivent. Alors, il y a la France notamment, après les Américains et les Européens, transportés jusqu'à Djibouti, hein, pour prendre des vols retour, un premier groupe de Chinois, plusieurs dizaines de Sud-Africains, des centaines de ressortissants de pays arabes sont également sortis du Soudan par la route. Dans le même temps, moins 20 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad, frontalier du Darfour, qui est une région de l'ouest du Soudan. Totos, bonne journée à toi. Au 10e jour, des affrontements entre armées et forces paramilitaires, on va voir qui est qui dans un instant, qui ont fait plus de 400 morts et 4 000 blessés. 400 morts en 10 jours, vous imaginez la violence des combats, ça n'est pas rien. Le Soudan sombre de plus en plus dans le chaos. Aux combats acharnés qui se déroulent principalement dans les rues de Khartoum et au Darfour se sont ajoutés violence et pillage. Et alors, quelles sont les raisons, vous le voyez ici, de l'embrasement? Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. Eh bien là, Libération l'explique. Une rivalité entre deux généraux, deux généraux putschistes. Voilà ce qui a créé. Ce conflit, les combats qui se poursuivent depuis le 15 avril au Soudan opposent deux forces militaires puissantes, dirigées chacune par un chef qui veut s'imposer face à l'autre. À la tête de l'armée régulière soudanaise, vous avez un monsieur qui s'appelle Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef de l'État de fait, de facto, et qui s'oppose à qui? À son adjoint, à son numéro 2, ambiance. Qui lui s'appelle Mohamed Hamdan Daglo, qu'on surnomme Emeti, qui est le chef des forces de soutien rapide, qui est une formation paramilitaire, une milice qui devait être intégrée justement à l'armée. Tous deux prétendent être favorables à un cessez-le-feu, bon, pas vraiment en fait, et au dialogue, mais chacun ses conditions qui sont inacceptables par l'autre. Les chefs militaires, ça y est, c'est pas fini, parce que c'est assez surréaliste. Les deux chefs militaires qui avaient mené ensemble un coup d'État en octobre 2021 pour évincer les civils du pouvoir. Voilà. Ok, j'ai vu. Ouais, là, on est sur Libération. J'en reviens à mon article. Donc, deux chefs militaires qui avaient mené ensemble un coup d'État en octobre 2021 pour évincer les civils du pouvoir. Ils avaient ainsi mis un coup d'arrêt au processus de transition entamé en 2019 après une révolution populaire qui avait renversé à l'époque le dictateur Omar el-Béchir, emprisonné depuis. Donc, une dictature. Un processus qui met les civils au pouvoir avec un processus de transition. Un coup d'État en octobre 2021 par les militaires et... c'est très gentil, Adurna, ce que tu dis. C'est faux, mais c'est adorable. Et aujourd'hui, deux chefs militaires qui se tirent la bourre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est d'ailleurs à la veille d'un nouveau transfert de pouvoir prévu vers les civils, comme par hasard, que la confrontation a éclaté entre les deux généraux. Voilà. Alors l'article évoque... le prix payé par les civils soudanais cette guerre, les habitants de Khartoum qui fuient la capitale, les bombardements aériens et assauts à l'arme lourde, on ne parle pas de combats aux armes légères, quoi, qui ont touché des hôpitaux, qui ont touché des écoles. Voilà. 60 des 74 établissements hospitaliers de la ville sont hors service. Khartoum, c'est quand même une ville de 5 millions d'habitants. C'est une immense ville, très, très étalée. Voilà. Alors, un espoir quand même, à la fin de l'article, parce que je me rappelle, je l'ai lu ce matin, j'ai pas mis de stabilo, mais je me rappelle de la fin de l'article. Un espoir. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est sur la deuxième page. Voilà. Parce que bon, pour l'instant, au moment où Libération a écrit, il n'y a pas de cessez-le-feu. Mais j'ai entendu ce matin, on l'a donné sur France Info, qu'il y avait un cessez-le-feu de 72 heures qui venait d'être signé. Hop. On va vérifier cette info. Donc déjà, première chose positive, il y aurait un cessez-le-feu. Après, il faut qu'il soit respecté, bien sûr. Regardez. On va aller sur les dernières infos. Je pense qu'on va trouver le cessez-le-feu assez vite. On va aller sur le direct de France Info. Sur le franceinfo.fr, qui est un bon site d'info, comme il y en a d'autres, comme il y a lemonde.fr, comme il y a lefigaro.fr. Voilà, ça c'est la dernière info sur le Soudan. Donc ça c'est le point sur les évacuations, et on va trouver sûrement l'info sur le cessez-le-feu, en remontant un petit peu. Cessez-le-feu. Cessez-le-feu de 72 heures entre l'armée et les paramilitaires, lueur d'espoir, pour interrogation. Les deux camps ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril. Donc c'était... minuit, là. Devant durer 72 heures, c'est une annonce des États-Unis d'Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain. Quoi. Voilà. Donc ça, premier petit espoir, quoi. Et puis, ici, vous avez un autre espoir qui est évoqué par l'article de Libération, qui est là. Une coordination internationale avec les forces régionales qui ont de l'influence sur l'une ou l'autre des parties est en train de se mettre en place. Égypte, Émirats arabes unis, Arabie saoudite pourraient peser sur les deux chefs d'État militaires. En tout cas, c'est le sens du mécanisme de coordination mis en place sous l'égide de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne, des Nations unies, auquel la France a décidé d'apporter son total soutien. Voilà. Mais les moyens de pression pour être entendus par les belligérants manquent. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté internationale ne laisse pas les Soudanais seuls. Et vous voyez, il y a une initiative internationale avec des puissances régionales, avec des institutions internationales, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne, les Nations unies, voilà, qui essaient de se mettre en place pour provoquer des négociations entre les deux parties au conflit. Quoi. Voilà, donc croisons les doigts pour que ça débouche dans les prochains jours. Objectif Economy Live me dit qu'un militaire français a été blessé d'ailleurs dans les évacuations. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. On va suivre ce sujet, mais merci à Libération de nous avoir expliqué le pourquoi et le comment. Drostea, merci aussi pour ton Prime. Ah, ça c'est passionnant aussi. Ah là, je sais, je vous dis ça à chaque article. Et pour cause, le matin je lis tous les journaux, donc je lis, souvent je lis dans le même ordre toujours, je lis Le Parisien, j'ai une petite marotte, après je lis Libération, après je lis, je vais vous dire, Le Figaro, après je lis La Croix, Après, je lis l'opinion. Après, je lis l'humanité. Parfois, je lis l'humanité avant la croix, ça dépend. Après, je lis les échos. Et après, je lis l'équipe. C'est à peu près toujours le même ordre. Et donc, je lis tout ça. Je lis tous les articles le matin. Puis après, je fais ma petite sélection. Voilà. Pourquoi cet ordre? Je sais pas. Je sais pas. Parce que je trouve que... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je fais ça tous les matins. Et forcément, je ne vous mets de côté que les articles que je kiffe un petit peu. Et donc, c'est pour ça que souvent, j'arrive sur l'article, je vais... Ah, il est exceptionnel, cet article, parce que c'est un des dizaines et dizaines et dizaines et dizaines d'articles que je lis le matin. Ici, par exemple, ce qui m'a intéressé, c'est cette annonce imminente, dit-on, peut-être que c'est déjà tombé, de l'annonce de la candidature à un deuxième mandat de Joe Biden, l'actuel président américain. Caca Boudingue, ça c'est du pseudo. Merci pour ton troisième amendement. J'applaudis ton pseudo en fait. Caca Boudingue. Merci Zerdex beaucoup pour le troisième amendement. Drostea, merci beaucoup pour ton prêt. Et donc, c'est donc... certains médias, notamment américains, pensent que ça va être aujourd'hui hein, que le président Biden va annoncer sa candidature. Moi, je voudrais bien rester prudent et dire que ça peut être aujourd'hui ou dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et effectivement, il n'y a pas trop de suspense puisque Joe Biden et son camp laissent entendre depuis déjà un moment qu'il va se représenter. Ce qui est un grand classique, hein, pour un président sortant. La Constitution américaine autorise une réélection, c'est-à-dire deux mandats consécutifs. Voilà. Et en fait, dans l'histoire des États-Unis, il y a plus, vous vérifierez, mais je crois qu'il y a plus de présidents qui ont fait deux mandats consécutifs que de présidents qui n'ont fait qu'un mandat. Souvent, quand ils ont fait qu'un mandat, ou c'était des problèmes de santé, ou c'était parce qu'ils étaient vraiment pas très très bons. Quoi. Donc c'est un classique, en fait, qu'un président se représente. Alors oui, comme vous êtes beaucoup à parler de son âge, oui, c'est actuellement le président le plus âgé qu'ait connu les États-Unis. Voilà. Effectivement, s'il se représente, eh ben, il sera encore plus âgé. Donc on a fait le calcul. S'il se représente et s'il gagne à la fin de son deuxième mandat, eh bien, merci Cacaboudin pour le gentil message avec Jean Massier, eh bien, il aura 86 ans à la fin de ce deuxième mandat. Voilà. On en a parlé ce matin avec une spécialiste de la vie politique américaine, d'ailleurs. Je viens de dire à l'instant, sans faire attention, oui, en général, quand un président américain n'est pas réélu pour un deuxième mandat, ce qui est un classique, c'est que vraiment, il n'est pas très très bon. Et du coup, quelqu'un vient de me rappeler que Trump n'a pas été réélu. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Je n'ai rien dit. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ce matin là-dessus? Hop, je zoome un petit peu. Donc c'est imminent, il n'y a pas trop de suspense. Voilà. Depuis plusieurs mois, son entourage et Biden lui-même laissent entendre que la seule question qui reste posée est le moment de l'annoncer. Voilà, mais que voilà, il n'y a pas trop de suspense. Il va être candidat. Voilà, aujourd'hui, dans les prochains jours, ça on ne sait pas. Quoi. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, est-ce qu'il est possible que la primaire démocrate ne valide pas cette candidature? Vous savez, la primaire démocrate et républicaine, pour les deux grands partis, c'est le moment où les militants, les partisans d'un parti se réunissent pour désigner leur candidat. Donc quelqu'un me demandait, est-ce qu'il est possible que le camp démocrate ne valide pas cette candidature? D'après l'échange que j'ai eu avec une spécialiste de la vie politique américaine ce matin, non. En fait, il y a très peu de risques que ça arrive. En général, la convention d'un parti valide la candidature d'un président sortant. En fait, c'est vraiment classique, quoi. Notamment parce que il a souvent de grandes chances d'être élu, en fait. Donc, a priori, pas trop de suspense pour Biden, malgré l'âge que vous évoquez. On va en parler d'ailleurs. Voilà. Je lis l'article en diagonale parce que je l'ai lu ce matin, mais j'ai plus mon stabilo là. Alors, sur la question de l'âge, donc je confirme. Le Figaro dit également que s'il est réélu, il aura 86 ans à la fin de son deuxième mandat. Il est déjà le président le plus vieux que les États-Unis aient jamais connu. Et à propos de son âge, certains disent « Ouais, mais il est déjà un petit peu sénile et tout, hein, bon, il faut dire les termes. » Le Figaro écrit « Si Joe Biden est loin d'être le vieillard sénile que décrivent régulièrement les médias républicains, ce qui les a d'ailleurs régulièrement conduits à le sous-estimer, le président démocrate n'en donne pas moins des signes de son âge, c'est quand même un homme qui est âgé. » Une chute de vélo et celle répétée en montant la passerelle de l'avion présidentiel l'ont rappelé à ses partisans comme à ses adversaires. Et dans ses interventions, Biden est aussi sujet de plus en plus fréquemment à des lapsus, absences et donne parfois même des signes de confusion. C'est intéressant parce que du coup, le Figaro rappelle que la campagne présidentielle de la dernière élection avait été pendant la crise sanitaire. Du coup, il y avait eu assez peu de meetings. C'était une campagne qui s'était faite beaucoup par messages vidéo interposés et que là, il y aura sans doute plus de meetings et il y aura des discours. Et peut-être ce sera... C'est peut-être un risque, un piège pour Biden qui pourrait effectivement ne pas apparaître sous son meilleur jour. C'est marrant parce qu'il y a Gandalf qui écrivait « Il faut mieux laisser la place à Kamala Harris ». Alors Kamala Harris, elle avait une grosse cote de popularité au début du mandat et en fait aujourd'hui, sa cote n'est pas très très bonne, Kamala Harris. On est d'accord que Kamala Harris, c'est la VP, non ? C'est la vice-présidente, je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur la vie politique américaine. Kamala Harris, c'est la vice-présidente, c'est ça. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, elle a pas mal perdu en popularité parce que de l'avis de beaucoup, ça n'a pas été une super vice-présidente. Voilà, c'est pas tellement une hypothèse, quoi. Et non, Manuel Valls ne s'est pas présenté à cette présidentielle Maori, mais j'aime bien cette vanne. Elle est très drôle. Donc, à suivre la campagne. Voilà, qu'est-ce que dit l'article ? Alors, Biden, candidat, décision qui semble avoir été renforcée à l'automne dernier par le relativement bon résultat du Parti démocrate aux élections de mi-mandat, ce qu'on appelle les mid-terms. Vous savez qu'à mi-mandat aux États-Unis, à mi-mandat du président, donc au bout de deux ans après son élection, eh bien, il y a des élections au Congrès où on renouvelle partiellement le Sénat et la Chambre des représentants. Et en général, le parti au pouvoir, eh bien, c'est un mauvais moment. En général, les électeurs en profitent pour sanctionner un petit peu le parti au pouvoir. Donc en général, c'est un mauvais résultat. Or, le résultat aux élections intermédiaires, où tout le monde annonçait peu ou prou une grande victoire de l'opposition républicaine, en fait, ben, cette large victoire n'a pas eu lieu. Et en fait, les démocrates ont fait mieux que résister, ce qui était une mauvaise surprise pour Trump, d'ailleurs. Et donc, c'est aussi ce qui a motivé, sans doute, explique le Figaro, Biden à se présenter à un deuxième mandat. D'ailleurs, on parlait du bilan aussi ce matin sur France Info de Biden. Le Figaro en parle. Biden compte aussi sur le bilan de son mandat où il a réussi à faire passer d'importantes lois, notamment sur les infrastructures, des lois sociales aussi. Sa politique internationale, notamment ses positions sur l'Ukraine, ont été saluées par une majorité des électeurs américains. Donc ça, c'est plutôt positif pour lui. Voilà. Bon, après, il y a des soucis. Hein. L'inflation qui continue de se faire sentir sur l'économie, la menace d'une récession qui n'est pas écartée, et aussi la perspective d'un nouveau duel qui est en fait l'écho, le bis repetita de la dernière présidentielle entre Biden et Trump qui n'enthousiasme pas les électeurs américains. C'est amusant parce que, a priori, la prochaine présidentielle va voir de nouveau s'opposer Biden et Trump. Et pourtant, quand on demande aux Américains, ils ne veulent pas voir ce duel. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est assez étonnant. Il y a 70% des électeurs américains qui ne veulent pas que Biden se représente. Il y a 60% des électeurs américains qui ne veulent pas que Trump se présente. C'est fou. Mais pourtant, c'est sans doute le duel qui va avoir lieu. Bon, c'est comme ça. C'est vrai que revoir le match... Et puisqu'on parle de Trump, le Figaro en parle ce matin. Il est encore devant la justice. Hein. On parle beaucoup de casseroles en France, mais aux États-Unis, on en parle aussi, mais pour Trump. Voilà, donc là, cette fois, il est quoi ? C'est pour la troisième fois en moins d'un mois, l'ancien président fait l'objet de poursuites devant un tribunal new-yorkais, cette fois pour une affaire de viol, après avoir été inculpé. Donc, je vous rappelle les faits précédents. Pour avoir maquillé en frais de campagne l'argent versé à une actrice porno, Stormy Daniels. Puis, donc, première affaire, puis questionné par un juge de Manhattan dans une affaire de fraude financière, eh bien, Donald Trump doit cette fois répondre d'une accusation concernant une agression sexuelle remontant aux années 90, avant le début de sa carrière politique. Donc, c'est une vieille histoire, avec une ancienne chroniqueuse du magazine Elle américain, voilà, Jean Carroll, qui a accusé Donald Trump de l'avoir agressé sexuellement 25 ans plus tôt dans une cabine d'essayage d'un grand magasin de luxe. Voilà. Mais après, elle s'explique de pourquoi elle a mis tant de temps à porter plainte. Voilà, ce qui arrive souvent dans les affaires d'agression sexuelle, d'ailleurs, avec des victimes qui parfois préfèrent se taire, en fait, notamment de peur de ne pas être crues.
notamment face à un homme de pouvoir. Voilà. Toi, c'est la petite actualité de Trump, quoi. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Capricorne. Ils n'ont pas besoin d'avoir un casier vierge. Non. Non. En fait, donc ça, c'est un truc qu'on avait, sur lequel on avait bossé sur France Info. Et en fait, tu peux avoir été condamné. Vous êtes plusieurs à poser la question et te présenter à la présidentielle américaine. Il n'y a aucun problème. En fait, voilà, c'est comme ça. Azalé me pose la question, est-ce que Trump est confirmé chez les Républicains ? Non, ni Biden d'ailleurs, parce que les conventions de chaque parti n'ont pas eu lieu. On est encore, on est à un an et demi de la présidentielle. Donc en fait, non, c'est pas confirmé, mais c'est le grand favori. Voilà, à un moment, il y a eu d'autres candidats républicains qui se sont imposés, comme vous voyez, DeSantis, la ronde DeSantis. Mais aujourd'hui, dans les sondages, en fait, celui qui a le plus de chances d'éventuellement remporter la présidentielle côté républicain, eh bien, c'est Trump, en fait. Trump, ouais. Qui est le favori du côté républicain. Et qui a toujours ses partisans, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'en France, c'est pareil. Dorkit44 écrit « En France, non plus, pas besoin d'un casier vierge. » Je crois que tu as raison. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir été condamné à une peine d'inéligibilité, ce qui arrive quand même assez rarement, il faut avoir fait des grosses bêtises, je pense que tu peux... Tiens, on va vérifier. Mais je pense que tu peux te présenter à la présidentielle avec un casier, en fait. Je vérifie parce que je veux être sûr de moi, parce que c'est pas un sujet sur lequel j'ai bossé. Tiens, j'ai un article de La Croix. Présidentielle 2022, un candidat peut-il avoir un casier ? Allons vérifier. Hein ? Oui, j'accepte. Alors. Tiens. Ni l'emprisonnement, ni aucun casier judiciaire. Ça va les pop-up là ? Ne prive le citoyen de ses droits civiques et politiques. Bah, c'est ce que je vous disais. Seule une peine complémentaire d'inéligibilité peut l'empêcher de prétendre à une candidature. Voilà. Tonton Buzz écrit... non, c'est juste au-dessus. Adrien écrit « Encore heureux, sinon les juges auraient trop de pouvoir. » Ah, c'est vrai. Alors, ça pourra sembler paradoxal à certains. En France, un citoyen ne pouvant justifier d'un casier judiciaire vierge peut se voir interdire certaines fonctions, telles que chauffeur de taxi, pompier, fonctionnaire... ambulancier, éducateur, pour avoir sa carte de presse. Je me rappelle, quand j'ai demandé ma première carte de presse, il fallait que je donne un extrait de casier vierge aussi pour avoir la carte de presse. Cependant, aucun casier judiciaire vierge n'est requis pour voter ou se présenter à une élection, voilà, telle que la présidentielle. Voilà. Sauf peine d'inéligibilité, bien sûr. Voilà. Oui, oui, et même GCDF rappelle que Marine Le Pen a été condamnée à plusieurs reprises, par exemple, et qu'elle voilà, peut être candidate ou présidente sans problème. Zemmour condamné pour insultes racistes, notamment, oui, mais il n'y a aucun souci, quoi. Certains pensent que je suis en train de lire le chat. En fait, je suis en train de faire une sieste. Hein. Je suis en train de faire une mini-sieste parce qu'à un moment, ça va. Hein. Le réveil a sonné à 2h ce matin. Donc, par exemple, je dormais. Alban, merci pour les bits. À l'instant. Voilà. Et ben, vous voyez, je n'ai pas mis grand-chose hein, ce matin. Ah, si ! Un petit dessert quand même. Un petit dessert. Bah ben, oui. Ma petite marotte du moment, là. Un petit article sur Twitter. Sur Twitter Blue, la petite pastille, là. Parce que c'est un article que j'ai trouvé dans les pages Écho du Figaro. Ouais. Tu as rêvé de quoi ? J'ai rêvé de rien, je crois. Par contre, en ce moment, il y a notre petit dernier qui vient de dormir un petit peu dans notre chambre, là. Oh, c'est Joe qui arrive. Bougez pas, les amis. Donc, profitez, c'est exceptionnel, on lui a bien dit que c'était que pendant les vacances, il a le droit de faire des petits dodos avec papa et maman, il a son petit lit à côté de nous, il est super content. Je vous ouvrirai, Joe, j'arrive. Il y a l'ami Joe qui passe là parce qu'on a un call. On a un call à midi pour préparer un stream secret. Voilà, vous ne devinerez jamais ce que c'est complètement fou. Un stream de malade, un nouveau stream. Non, pas Joe le taxi, un autre. Ça va, Joe? Te laisse te faire un café?
Ça va?
Non, ça va, ça va. Non, ça va. Tu veux venir dire bonjour? Fais gaffe, il y a des fils partout. Ouais. Tadam, Joe, que vous avez vu dans l'exposition Étienne samedi soir, Joe, que vous avez vu le matin du dimanche à Battlefort, Joe, que vous avez vu vendredi dans l'hebdo Étienne, et Joe, que vous voyez le mardi matin dans la matinée Étienne. Mais tu squattes tous mes streams, c'est pas possible ça.
Ça va venir à running gag.
Un jour, tu vas sortir de la salle de bain. Je fais. T'es là, toi. Bah ouais, je suis resté dormir. C'est quand ton prochain stream d'ailleurs?
Bah, peut-être cet après-midi, peut-être ouvrir des cartes Pokémon.
Alors, Joe m'annonce qu'il va peut-être ouvrir des cartes Pokémon cet après-midi ou aux alentours de.
Ouais, je sais pas, vers 15h, je pense.
15h, ouais, vous avez la chaîne dans le chat là. Joe Coco. Pourquoi Coco d'ailleurs?
Ah, tu veux vraiment l'histoire?
Je sens que c'est croustillant. Parce que je ne vais jamais demander pourquoi. Alors, Jonathan Joe, mais Coco. Parce que tu aimes la noix de coco?
Non, en fait, à la base, c'était Apple Minis. C'était Joe Apple Minis parce que c'était au lycée, c'était Apple Minis, les céréales à la pomme au four.
Ouais.
Et du coup, c'était le moment des iPhones.
Oui.
Donc, du coup, tout le monde disait, ouais, depuis que tu as un iPhone, tu te la pètes, machin.
C'est vrai, tu te la pètes.
Donc, j'ai transformé avec Choco Trésor. Parce que j'avais le cœur fondant, tu vois, donc le Choco Trésor.
Oh putain.
Et c'est mes anciens, c'est comme j'étais chez Géo, les streamers qu'on fait, c'est Coco. Parce que c'est
mais les trésors, les céréales, quoi.
Ouais, en fait, c'est que en rapport avec les céréales.
Donc en fait, Joe Coco, c'est le coco des céréales.
Voilà.
Voilà, tout simplement. ça vaut Mister Chibre.
Oui, voilà.
T'as vu le tweet qu'a fait Pépin ou pas?
J'étais en live avec elle, il y en a un autre qui arrive qui me fait très peur.
Pour ceux qui l'ont pas vu,
moi, j'ai proposé
Sam Dalf Leblanc.
J'ai proposé un autre surnom que ce qu'elle a mis, mais nous, a dit non.
Bah, la communauté a claqué ça. Tout à l'heure, on a fait un tweet ensemble.
J'ai trouvé ça trop bien.
Le faux mage blanc de la communauté de l'info. Voilà.
J'ai trouvé ta réponse très bien.
C'est drôle ça.
Il y a une deuxième photo qui arrive. Hein.
Ah oui, il y a les vialistes qui. Donc, Coco, c'est pas par rapport à la cocaïne. Ah ouais,
non,
c'est vrai.
Bien,
je m'étais pas posé la question, c'est vrai. Ah, t'imagines, ça aurait été drôle. Oh, t'imagines. Ah, pourquoi Coco? Bah, cocaïne, bien sûr.
Ah, ah,
c'est drôle. Donc, 15h, Joe Coco, ouverture de blister.
Tu sais pourquoi elle a fait ça?
Non.
C'est pour le JDR. Elle te prépare au JDR.
C'est quoi le JDR?
Tu sais, dimanche,
le journal.
Je voulais faire un JDR.
Ah, jeu de rôle?
Ouais.
Ah, j'ai trop envie de faire un jeu de rôle.
Donc, du coup, ça serait ton personnage.
Ouais, mais je voudrais peut-être jouer un méchant, moi, plutôt.
Saruman, il est méchant. Voilà, c'est Gandalf. Non, ça pourrait être Saruman.
Là, c'est Saruman le blanc, là. Non,
voilà, c'est Gandalf, mais tu pourrais.
C'est Gandalf, ouais, c'est ça. Ouais. On dit blister, hein, c'est ça, hein.
Ouais, des boosters.
Ah non, j'ai dit blister, moi.
Bah, moi, je l'ai mis sous blister, mais.
Ah oui, merde, non, je me suis gouré. Qui s'est moqué de moi qui me dit blister? Ah ouais, c'est booster. Ah, j'ai essayé de faire mon jeune. Putain, j'ai raté. Merde.
Moi, je me fais un café, je remets
les. Après, on les met dans les blisters. Hmm. Après, on peut les mettre dans des blisters.
Tu les mets sous sleeve et moi je les mets dans des
blisters. Ah, ouais, je me suis gouré.
Ça va venir,
merde. Faute du joueur là.
À 10 000 subs sur ta chaîne, on ouvre des cartes Pokémon, c'est ça?
À 10 000 subs?
Ouais, à 10 000 subs sur ta chaîne, on ouvre des cartes Pokémon.
À 10 000 subs sur ma chaîne? Bah, c'est pas. Joe dit à 10 000 subs sur ma chaîne, on ouvre des cartes Pokémon. va falloir envoyer des subs. Hein. Oui, il met les boosters dans les blisters. Enfin, il ouvre les boosters, il sort les cartes et les plus belles, il les met dans les blisters.
Il est sleeve.
Parce que c'est... Je comprends rien. À 10 000 subs, je fais un stream d'ouverture de blister. Ah, de booster. Putain, j'y arriverai jamais. Bon, alors, on parle de Twitter ou bien? D'ailleurs, ça rime d'ailleurs. On parle de. Voilà. Ouais, 10 000. Autant dire que ça n'arrivera jamais, quoi. Ok. Allez, let's go. Alors, Twitter. À où on en est, hein? On va essayer de comprendre ce qui se passe autour de Twitter. C'est totalement incompréhensible. Bullet 38, c'est parti pour les 10 000 subs ce mois-ci. Merci pour le sixième mois. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe autour de Twitter et des nouvelles certifications? On n'y comprend rien. Et j'ai trouvé ce matin un article dans le Figaro que je trouve assez intéressant. Musk sème la pagaille autour de Twitter Blue. C'est écrit par Chloé Voitier. C'est extrêmement clair. Le milliardaire ne cesse de modifier les conditions d'accès à ce service. Le lundi, Twitter marche comme ça. Le mardi, c'est encore un truc. Mercredi, c'est comme ça. Et ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'il y aura dimanche. Alors d'abord, l'article nous parle de la colère de personnalités, voilà, de certaines stars, notamment aux États-Unis, qui sont pas mal en colère contre Elon Musk. Je vais vous raconter. Je vous jure que je n'ai pas acheté ça. Ce type de propos est rare dans la bouche de célébrités. Il a pourtant déferlé tout au long de ce week-end sur le réseau social Twitter de la part de l'auteur Stephen King, de la star de basket LeBron James, de l'économiste Paul Krugman ou bien du rappeur Lil Nas X. Donc des gens qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux, mais qui sont tous en colère contre Musk. Pourquoi ? Parce que la plateforme indique depuis samedi qu'ils se sont abonnés, hein, quand on clique sur leur petite pastille bleue, au service Twitter Blue, 8 euros par mois, ce qu'ils n'ont pas fait. Or, la pastille dit qu'ils l'ont fait, qu'ils ont payé. Voilà. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ça, vous savez peut-être pourquoi. Merci de noter que je n'ai pas souscrit à Twitter Blue, écrit l'auteur Rick Wilson. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? S'exclame l'animateur de podcast John Favreau en voyant apparaître une coche bleue à côté de son nom d'utilisateur. Alors que l'acteur Ian McKellen précise qu'il ne paye pas non plus cet abonnement. Cette fameuse coche bleue qui est désormais payante pour les gens qui ne sont pas des célébrités, je suis où dans mon texte, est donc apparue ce week-end sur le compte Twitter de célébrités, même décédées, comme par exemple la star de la NBA Kobe Bryant ou encore l'acteur Chadwick Boseman. L'explication à ce foisonnement de Twitter Blue imposé serait que la plateforme offre désormais un accès gratuit à ce service pour les comptes dépassant 1 million d'abonnés, voilà, de followers. Ce que ne confirme pas le service de presse de Twitter, puisque le service de presse de Twitter a été supprimé, histoire de supprimer quelques emplois par Musk. Ce changement de politique va, alors ça pose plein de problèmes, à l'encontre des déclarations de Musk, qui avait répété qu'il voulait mettre un terme avec cette nouvelle politique de certification accessible à tout le monde moyennant quelques dollars, quelques euros, mettre fin à un système de, disait-il, de privilèges, de copinage, avec que certains qui avaient le droit à la certification, qui certifiaient notamment leur identité. Et là, on revient un petit peu à ce système qui était dénoncé. Ce symbole, avant, était un gage de notoriété aussi, d'authentification. Il avait été distribué par Twitter à plus de 600 000 personnes dans le monde. J'avais la chance d'avoir cette petite coche bleue qui certifiait que j'étais Samuel Etienne et pas quelqu'un qui se faisait passer pour Samuel Etienne. Toutes ces personnes, les 600 000 dont je parle, ont perdu leur coche vendredi, y compris votre serviteur, à l'exception des grandes entreprises, la coche dorée, hein, deux dirigeants politiques, la coche grise, et des personnalités ayant plus de 1 million d'abonnés, donc qui ont récupéré gratuitement la coche bleue. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas des politiques, des entreprises qui payent un abonnement assez cher pour la coche dorée et qui ne sont pas des personnalités avec 1 million de followers sur Twitter, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de payer. Et le Figaro écrit... Il y a de quoi perdre son latin face à la complexité de Twitter Blue, abonnement censé renflouer les caisses d'un réseau social fui en masse par les annonceurs. Hein. Vous savez que les publicités, les annonceurs ont fui Twitter depuis que Musk est arrivé à la tête. On a les chiffres, c'est assez impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la modération a baissé sur Twitter et que au nom de la liberté d'expression, Musk a décidé que n'importe qui pouvait dire à peu près n'importe quoi sur Twitter, et qu'il y a aussi des affaires de comptes créés, de faux comptes de personnalités ou d'entreprises qui ont pu faire passer de fausses informations. Il y a beaucoup de grosses marques qui ont dit « moi, je ne mets pas de publicité sur un réseau social, je ne veux pas voir ma marque se promener sur un réseau social où il y a autant de dingueries, quoi. » Donc, il faut trouver de l'argent, d'où l'abonnement. D'après le développeur Travis Brown, Blue compte environ 600 000 abonnés payants désormais sur 250 millions d'utilisateurs. Parmi ces abonnés, près de 400 000 ont moins de 1000 personnes qui suivent leur compte. Voilà. Donc c'est plutôt des petits comptes statistiquement qui s'abonnent. Et plus inquiétant, moins de 5% des comptes anciennement certifiés, hein, 5% des 600 000 comptes qui étaient certifiés avant, eh bien, sont passés à l'abonnement payant. Donc en fait, cet abonnement payant a très peu de succès et a encore moins de succès auprès des personnalités qui avant avaient la certification. Voilà. D'où peut-être cette décision de Musk de donner gratuitement sans leur demander leur avis, ce qui pose problème, et c'est critiqué par certaines personnalités, certaines stars aux États-Unis notamment, donner gratuitement cette certification pour en faire un peu la promotion en disant, vous voyez, voilà, tel ou tel, ils ont craqué pour ma nouvelle certification payante, voilà. Et, donc il faut sûrement la prendre, c'est sûrement très très bien, sauf qu'en fait c'est faux puisqu'ils n'ont pas payé du tout. Et du coup ça abîme cette certification, cette coche bleue. Twitter fait passer Blue pour un produit pour arrivistes qui achètent une imitation d'un produit de luxe. C'est aussi gênant qu'une fausse Rolex, un spécialiste de la communication. Le profil des premiers abonnés à Blue, diffuseur de fausses informations, personnalité clivante, usurpateur d'identité, a aussi fait office de repoussoir pour les célébrités qui ne souhaitent pas y être associées, ce qui expliquerait peut-être qu'il y a beaucoup de célébrités qui ne s'abonnent pas. Voilà. Par exemple, il y a un créateur de jeux vidéo qui s'appelle Tim Schafer qui a reçu la coche bleue contre son gré puisque son compte doit dépasser 1 million. Il dit « Je serais pourtant prêt à payer. Je serais pourtant prêt à payer pour une vérification en règle de mon identité. » C'est-à-dire si vraiment la certification garantissait mon identité. Et aujourd'hui, l'abonnement payant à Twitter ne garantit pas l'identité. Hein. Il ne garantit qu'une chose que vous avez payée. D'ailleurs, je suis un petit peu sur la même ligne, moi. Moi, en vrai, ça ne me dérangerait pas de payer quelques dollars, quelques euros par mois, pour une certification, mais une vraie certification, une certification qui certifierait que je suis Samuel Etienne, comme l'ancienne certification. L'actuelle certification payante ne garantit absolument pas ça, garantit rien du tout, juste que vous avez payé, ce qui n'a aucun intérêt, puisque n'importe qui peut créer un compte Samuel Etienne et se faire passer pour moi. En revanche, moi je le dis, hein, si Twitter me proposait un abonnement payant qui certifie réellement mon compte, je paierais, mais ça n'existe pas. Vous en pensez quoi, vous? Merci Bolette38 pour le sixième mois encore. Oui, c'est une certification de paiement, c'est ça, ouais. Alors, question très intéressante de Thomas. Samuel, ne penses-tu pas trop mettre en avant ce sujet dont je vous parle régulièrement, qui intéresse surtout le monde des influenceurs? Alors non en fait, parce que ça intéresse pas que le monde des influenceurs. Pour moi, Twitter, c'est un formidable outil d'échange, de débat et d'information. Il y a plein de sources d'informations, des sources fiables, hein, qui m'intéressent sur Twitter. Voilà. Et justement, avant, la petite coche bleue qui authentifiait réellement l'émetteur de l'info, un journal, Le Monde, Le Figaro, une personnalité, un journaliste, du coup, ça permettait de savoir qui te parlait. Aujourd'hui, tu ne sais plus, donc du coup, c'est un peu compliqué, il faut faire super attention à qui te parle, parce qu'il n'y a plus cette vraie authentification. Et c'est là où ça n'est plus du tout un sujet d'influenceur, mais qui est un sujet d'info et un sujet de qualité de l'info. Du coup, ce nouveau système, en fait, il peut permettre beaucoup plus facilement avant d'émettre de fausses informations sur Twitter. Ah, téléphone sonne, mon rendez-vous approche. Et c'est là où c'est pas du tout un débat d'influenceur, c'est un débat, en fait, sur la qualité de l'info que tu peux lire sur Twitter. C'est pour ça qu'en tant que journaliste, en fait, c'est un sujet qui est important. Et qui est pas, c'est pas un truc d'ego. Moi, mon compte, il est toujours à 300 000 et quelques followers, ça change rien, en fait. Mon compte est toujours aussi important. C'est pas un truc d'ego. Cette coche bleue, je m'en fiche. En plus, elle n'a aucun intérêt. Je ne veux pas l'avoir, cette coche, parce qu'elle ne veut rien dire. Elle veut juste dire que j'ai payé. Moi, ce que je veux, c'est récupérer l'ancienne coche qui garantit mon identité. Elle n'existe plus, celle-ci. Sauf si France Télévisions décide de payer l'abonnement qui est assez cher à la coche dorée, donc 1500 euros, je crois, par mois, pour une entreprise. Et cette coche gold permet ensuite à l'entreprise d'authentifier les comptes de salariés, voilà, à raison de 60 euros, je crois, par mois pour chaque salarié authentifié. Là, ça redevient une authentification, voilà, puisque c'est garanti, authentifié par l'entreprise. Et donc, ça, comment vous pouvez... Alors, le problème, c'est que c'est encore une coche bleue. Comment la distinguer de l'autre coche bleue payante qui ne certifie rien? Il faut cliquer dessus et c'est marqué « certifié » parce que affilié à telle entreprise. Et à côté, vous avez le badge de l'entreprise en question. Voilà. Donc c'est une vraie certification, c'est intéressant. Je ne sais pas si France Télévisions va le faire, parce que ça implique des dépenses, et puis ça implique de valider globalement cette nouvelle politique de Musk. Il se trouve que Delphine Ernotte a donné une interview où elle critiquait les orientations du nouveau Twitter. Donc je ne suis pas sûr que France Télévisions prenne cet abonnement, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Et en plus, ça m'ennuie, parce que moi je préférais le truc d'avant. Imaginons que demain France Télévisions prenne l'abonnement Gold et me certifie. Bon, alors ça c'est bien, parce que je suis de nouveau certifié, mais certifié en mode c'est bien moi. Hein, ok, ça vous avez bien compris. Mais le problème, c'est que du coup après j'aurai le petit badge France Télévisions à côté. J'aurai le petit badge France Télévisions à côté. Et je suis très fier de bosser à France Télévisions, mais je ne suis pas, quand je suis sur Twitter, je suis Samuel Etienne. Je suis Samuel Etienne, le journaliste, l'animateur, mais je suis aussi le streamer. Et si jamais... Demain, je récupère ma petite coche bleue par mon employeur. Je deviens sur Twitter Samuel Etienne, coche bleue France Télévisions. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que je ne suis pas que ça. Vous voyez ? C'est pour ça que je suis un peu en colère contre tout ce truc parce qu'en fait, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Hein. C'est pas top. Ouais, c'est pas un truc d'influenceur. C'est un truc qui je trouve, dérègle plein de trucs. Voilà, l'ancien système était pas terrible. Le nouveau, il est pire. Vous voyez ? Voilà, je suis un peu embêté, je trouve pas ça trop top, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne au système où voilà, on certifie l'identité des gens en fait, en disant bah voilà, c'est bien telle personne qui vous parle, quoi. Ouais, j'ai dit 1500, mais ça doit être 1150 euros par mois pour les entreprises qui veulent être gold. Je crois. Bon, c'est un peu de sous quand même. Pourquoi rester sur Twitter dans ce cas? Parce que je trouve que l'outil est génial. La certification est naze, mais l'outil, pour un journaliste, est vraiment intéressant. Moi, il y a plein d'infos que je vois sur Twitter, et venant de comptes sérieux carrés, en fait, que je vois d'abord là, quoi. Qui me renvoient sur des articles. C'est un super outil. Hein. Et c'est aussi un outil de communication pour donner des infos, pour faire des vannes comme celles qu'on a fait tout à l'heure. Moi, j'adore, hein, en tant que journaliste. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu ennuyé, un peu en colère, parce que en fait j'adore l'outil, et je trouve que Musk l'a abîmé en fait. Comment l'entreprise Twitter se fait de l'argent, dit Tom, s'il n'y a pas les abonnements? Et ben en fait, par la pub. Hein. Facebook, vous payez pour Facebook? Non. Vous payez pour Instagram? Non. Vous payez pour TikTok? Non, en fait. Mais il y a de la pub de partout, comme Twitter d'ailleurs. Et donc en fait, voilà, il y a un modèle qui existe déjà. Quand vous regardez en tant que viewer si vous prenez pas de sub à des créateurs de contenu pour le soutenir, bon, vous pouvez regarder gratuitement, quoi. Donc parce qu'à un moment vous tombez sur les pubs, quoi. Donc est-ce qu'on va vers un nouveau modèle où tous les réseaux sociaux vont nous faire payer? C'est-à-dire qu'en plus de la pub qu'ils nous mettent, parce que c'est déjà une façon de se rémunérer. Ils vont nous faire payer, peut-être, hein, c'est peut-être un nouveau système. Alors, est-ce qu'on va accepter ce système? Je ne sais pas. Voilà. Moi, en vrai, moi, ça ne me dérange pas de payer pour un outil, en fait, mais si j'y trouve mon compte, quoi. Si le service qui me proposait en face de l'argent que je dois sortir de mon porte-monnaie, en fait, il est de qualité, quoi. Donc, si demain, Twitter, par exemple, me remet une vraie certif, hein, un vrai badge avec une couleur spécifique pour dire, OK, la personne qui vous parle, c'est vraiment la personne qui vous parle. Moi, j'achète ça. Mais je ne veux pas payer pour un service que je trouve naze, en fait. C'est pas payer qui me gêne, hein. Mais il faut que la propale soit intéressante. Bon, là, c'est aucun intérêt. Aucun intérêt, je ne veux pas payer pour un truc que n'importe quel complotiste qui pense que la Terre plate peut payer en racontant n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas d'être au même niveau, en fait. Vous voyez ? Voilà. Bon, on va pas parler tous les jours non plus. Hein. Mais bon, c'est intéressant parce que c'est un petit feuilleton qui est assez amusant quand même. Ça nous rappelle aussi, parce que c'est un débat qui est beaucoup plus large, que Twitter, c'est une entreprise privée, voilà, qui appartient aujourd'hui au milliardaire Elon Musk. Il en fait ce qu'il veut, en fait. Hein. C'est à lui, hein, c'est son jouet. Hein. S'il veut l'abîmer, s'il veut le casser, son jouet, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est à partir de la considération que c'est une entreprise privée. Sauf que le problème, c'est que l'outil, il est public. Et l'outil, il remplit des missions d'intérêt public, des missions d'échange, des missions d'être ensemble, des missions d'information. Donc, l'entreprise est un outil privé, mais dont les enjeux, les missions sont bien au-delà des purs intérêts capitalistiques de l'actionnaire, en fait. Voilà. Hein, des médias, des individus, des gouvernements utilisent Twitter pour émettre des informations, pour débattre. Voilà. Et donc, d'un côté, c'est privé, donc il fait ce qu'il veut, et de l'autre, il y a tellement d'enjeux, en raison de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont des éléments essentiels au fonctionnement de nos sociétés modernes et de nos démocraties, eh bien, c'est qu'à un moment, on devrait se dire que non, même si l'entreprise privée, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. De la même manière que, bah vous savez, par exemple, que l'information en France n'est pas considérée comme un produit comme les autres. C'est un produit qui est encadré, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Le livre, en France, n'est pas un produit comme les autres. Hein, il échappe un peu au marché. Hein. Il y a un prix minimum. Hein. La France a été le premier pays au monde à mettre en place un prix minimum pour le livre, justement pour que le livre soit protégé, les libraires notamment soient protégés, notamment des assauts de la grande distribution. Voilà. Parce qu'on a décidé à un moment dans un pays comme la France que le livre n'était pas un produit comme les autres, c'est un produit culturel. Bah, l'info, c'est un peu pareil, en fait. Et à un moment, les réseaux sociaux qui sont devenus des outils essentiels à nos sociétés et à nos démocraties, bah, quelque part, ça n'est pas un produit comme les autres. Voilà. Voilà. Donc c'est ce genre de débat, en fait, qu'on est en train d'avoir ici. C'est pas qu'une histoire de petit... C'est pas un truc de scout avec un insigne ou un pin, ce qu'on a ou qu'on n'a pas, vous voyez. Voilà. Oui, je pense que c'était sous... quelqu'un me parle de Jack Lang. Oui, je pense que c'était sous François Mitterrand. C'était lors du premier mandat de François Mitterrand pour le livre, si mon souvenir est bon. Les amis, je vais vous laisser. Pas parce que je passe un mauvais moment, c'est parce que dans quelques minutes, j'ai un call avec je ne vais pas vous dire qui, pour organiser un prochain stream bientôt avec Joe pour préparer ce stream qui va nous demander un petit peu de travail, de l'implication, du développement, de la réflexion, etc., etc., etc. Un truc tout nouveau. Voilà. Donc, hop, je débranche la petite tablette. On va faire un raid, bien sûr. Hein. Désolé, je ne vous ai même pas fait d'horoscope ce matin. Mais demain, je serai là. Demain, je n'oublierai pas les journaux comme je l'ai fait à France Info ce matin. Je n'aurai pas à les télécharger. Et j'aurai sans doute beaucoup plus de choses. Donc, c'était un tout petit stream de 2h05. C'est un mini stream. Hein. C'est un flashounet. Hein. Voilà. Je m'en excuse. Demain, on fera un bon gros stream bien saignant de 3h, 3h30. Voilà. Voilà. On fait ça demain matin. On se retrouve vers 9h30. J'espère que j'aurai rien. Je ne vais pas oublier cette fois. Et voilà, vous me faites comme d'habitude une petite propale. On met 2 minutes de musique et on fait un raid. Dans le chat, proposez-moi maintenant des noms de streamers, de streameuses qui sont live actuellement, qu'on va aller soutenir, qu'on va aider. Voilà. Plutôt des gens qui n'ont pas encore beaucoup de viewers. Je vous mets 2 minutes de pub, ceux qui ne sont pas abonnés, pour payer le café. Et les abonnés, je vous mets un peu de musique. Il y a Joe qui rigole. Bah, avec ma consommation de café, pas mal ça. Dans 2 minutes, on raid. A tout de suite, bande de belles personnes. Alors, c'est où OBS? Alors, on va où? Alors, c'est parti. Où est-ce qu'on va? Bon, c'est pas trop connu, mais oui. Ah, on était avec lui. Moi, je regarde... Ouais, mais je regarde, mais il a deux mondes. Ah, c'est beaucoup. Pas vraiment un coup de main, ça. Ah, j'ai déjà fait plein de fois. Ah, j'aime bien aller voir les noms que je connais pas. Montre-moi. On reste dans 20 secondes. On va trouver une destination. Voilà. Oh, je crois qu'il y a Solal qui arrive. Je crois qu'il y a Solal et Rodelia qui arrivent. Waouh! Il y a Solal et Buzz d'éclair qui arrivent. Ouais, alerte enfant! Attends, ma souris est coincée. C'est bon. C'est bon. Les amis, je vais arrêter la musique. Ouais, il y a Sol. Bien sûr, j'ai quelque chose à manger pour toi. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas des macarons, mais j'ai peut-être des. J'ai du Babybel, j'ai du chocolat. Ouais, attends, bon. D'accord. Les amis, j'allume pas la caméra. Il y a Solal, 3 ans, qui nous a rejoint. Par contre, on va faire le raid. Voilà, je charge le raid. Merci des propositions. Bien sûr, un chocolat, j'arrive. On va raid cette chaîne. Je vous donne l'adresse. Le nom de la chaîne, si jamais vous vous perdez en cours de raid, c'est Fanifique. F-A-2-N-Y. F-I-Q-E. Fanifique. 72 viewers. Et vous arrivez, vous êtes genre 4000. Ça va être sympa. Voilà. On va découvrir un nouvel univers. Celui de Fanifique. Ah ben, cela l'est reparti. Et moi, je vous retrouve demain, voilà, avec une rue de presse encore plus longue, et on dira encore plus des bêtises, et on passera encore plus de bons moments. Hop, la Solal. C'est parti pour le raid. À demain. Merci pour tout. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Oui, mon chéri. Il connaît pas Buzz d'éclair, Joe? Il connaît rien. À demain. Merci pour tout. C'est parti.